Bonsoir les amis. Levons-nous tous un instant pour prier. Notre Père Céleste, nous nous sommes assemblés de nouveau dans cette assemblée solennelle ce soir, dans le service du Seigneur. Et tu as promis que où nous nous réunirions, même deux ou trois, que tu serais au milieu de nous. Et nous pouvons être assurés que tu es ici, car nous nous sommes assemblés en son nom. Maintenant nous prions, Père, que tu viennes ce soir et que tu brises ce second sceau pour nous. Et comme le poète a dit, il aimerait regarder au-delà du rideau du temps. C'est notre désir, Seigneur, de regarder et de voir ce qu'il y a devant nous. Et nous prions que l'agneau qui a été immolé vienne au milieu de nous maintenant et qu'il brise le sceau et qu'il nous le révèle, les choses que nous devons voir. Seigneur, s'il y en a ici qui ne sont pas encore entrés dans cette grande communion autour de Christ, nous te prions que ce soir, ils puissent prendre cette décision éternelle, être remplis de l'Esprit de Dieu. S'il y a des malades, Père, nous te prions de les guérir. Il y a beaucoup de mouchoirs posés ici sur lesquels je pose les mains en se souvenant de la Bible, Saint Paul, où on prenait de son corps des mouchoirs et des tissus et les esprits impurs les quittaient, ils étaient guéris. Nous voyons que la venue du Seigneur est proche. Ces choses sont retournées à l'Église après 1900 ans. Maintenant, nous te prions, Père, que tu accordes ces choses que nous demandons. Fortifie ton serviteur et aide tes serviteurs partout, Seigneur, spécialement nous qui sommes assemblés ici ce soir, afin que nous puissions recevoir la parole. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Certainement bon d'être de retour dans la maison du Seigneur à nouveau ce soir. Je sais que beaucoup sont debout. Je suis désolé à ce sujet, mais je pense que nous ne savons rien faire d'autre. Nous avons agrandi l'Église où nous puissions avoir 300 ou 400 personnes en plus. Mais pour des réunions spéciales comme ceci, ça comporte plus de monde. Oh, j'ai un temps merveilleux dans la prière et l'étude de ces sceaux. J'espère que vous aussi, j'en suis sûr. Et si ça signifie autant pour vous que pour moi, alors certainement vous passez un moment merveilleux. Et je veux appeler une petite amie après son anniversaire. C'est son anniversaire, elle a 12 ans, c'est Sarah, ma fille. Et le jour après-demain, je devrais de nouveau téléphoner car ce sera l'anniversaire de Becky. Ce soir, maintenant, nous allons étudier ce second sceau. Et pour les quatre premiers sceaux, il y a quatre cavaliers. Et je vous dis, aujourd'hui, quelque chose est arrivé à nouveau. Je voulais reprendre mes anciennes notes, se rapportant aux prédications que j'avais faites il y a longtemps. Je me suis assis à mon bureau en pensant que j'avais fait de mon mieux. Beaucoup d'écrivains, ces choses, et je disais, eh bien, je vais lire un petit peu, je vais chercher ceci, cela. Et la première chose qui est arrivée, quelque chose est arrivé, et c'était complètement différent. Ça se présente différemment. Alors j'ai vite pris un crayon et j'ai commencé à écrire aussi vite que je pouvais pendant qu'il est là. Quelque chose s'est passé il y a environ une demi-heure. Je disais à Fred Woods, en venant il y a quelques minutes, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dont on ne peut simplement pas parler. Quelque chose est arrivé qui m'a tellement aidé. J'ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Ce frère, c'est frère Lee Vail. C'est un précieux frère, un véritable étudiant des Écritures. Dr. Vail, c'est un baptiste avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas cela pour le complimenter, mais je le dis parce que je le crois. Je pense que c'est l'un des meilleurs étudiants que je sais parmi nos rangs. Il vient de m'écrire une petite note ici, et il l'a envoyée par Billy. Billy a eu de la difficulté à me le remettre. Je n'ai pas tout lu. Et Frère Vail, si vous êtes ici ce soir, j'ai lu ça il y a environ 6 mois. Je ne suis pas positif certain, disait-il, Frère Vail, mais je pense que Polycarpe était un étudiant de Saint-Jean. C'est juste, c'est exact. Je pense qu'Irénée était un étudiant de Polycarpe. C'est correct, exactement. Irénée a dit, Jésus reviendra quand le dernier membre élu du corps de Christ entrera. Ça, c'était Irénée, environ 400 ans après la mort de Christ. Il a dit, quand ce dernier âge viendra, et ça se trouve dans le concile pré-nicéen, vous qui lisez, qui étudiez les Écritures, je veux dire qui étudiez l'histoire de la Bible, vous trouverez ça dans le concile pré-nicéen. Je pense que c'est le premier ou le deuxième livre, vous allez le trouver. Il a vu cela il y a des années, il a dit, le dernier des élus, c'était élu. Les gens croient que l'élection est une chose qui vient d'éclore ici récemment. Oh là là, c'est l'un des plus anciens enseignements qu'il y a, l'élection, l'appel. Ainsi, Irénée, certainement, véritables étudiants des Écritures, ont toujours cru dans l'élection. Ainsi donc, Irénée, c'est l'un des anges des âges de l'Église, comme nous l'avons vu, nous l'avons étudié, nous le croyons. Bien sûr, c'était tous des mystères qui étaient cachés là, ici, dans ces sceaux, et qui doivent être révélés dans les derniers jours. Et cela a commencé avec Paul, et Irénée, Martin, et ainsi de suite. Ça arrive jusqu'au dernier âge. Et maintenant, nous croyons que le Seigneur va nous bénir dans nos efforts ce soir. Maintenant, le premier sceau, certainement j'ai apprécié cela, le premier sceau, les bénédictions qui l'ont accompagné pour moi. Et maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Vous savez, je vais repartir dans quelques soirées après la fin de ceci. Il nous faudra souffrir en quelque sorte un petit peu. J'ai apprécié Frère Junior Jackson qui est là, et je crois que j'ai vu aussi Frère Ruddle il y a quelques instants, quelque part ici. Ce sont nos églises sœurs, et les autres, et j'apprécie, je vois Frère Hooper, je crois, le long du mur là de Utica et l'église là-bas. Certainement, nous vous apprécions votre merveilleuse coopération ici. Maintenant, hier soir, comme nous aimons toujours dans l'enseignement sur les sceaux, nous enseignons de la même manière que les âges de l'Église. Quand nous avons terminé l'enseignement sur l'âge de l'Église, la dernière fois, quand j'ai dessiné ça ici sur la chair, le tableau, combien se souviennent ce qui est arrivé? Il est descendu là, directement au mur, là, la lumière, et a dessiné là, directement, devant nous tous. L'ange du Seigneur s'est tenu debout ici, devant plusieurs centaines de personnes. Et maintenant, il fait quelque chose de vraiment surnaturel maintenant aussi. Ainsi, nous nous attendons à de grandes choses. Vous aimez ça, cette grande expectative de voir ce qui va arriver? Vous savez, en attendant simplement, combien Dieu est grand pour nous, comme il est merveilleux. Nous l'apprécions certainement. Maintenant, le premier et le deuxième verset, je vais le lire pour nous donner un petit arrière-plan. Et puis, nous allons prendre les versets 3 et 4 du deuxième psaume. Et ensuite, le verset 5 et 6, c'est pour le troisième psaume. Et puis, 7 et 8, deux versets pour chaque cavalier. Et je veux que vous regardiez comment ces gars-là, ce cheval pâle, continue à changer alors qu'il avance. Et puis, le dernier grand saut qui doit s'ouvrir, Dieu voulant, dimanche soir, quand c'est arrivé, la seule chose qui est arrivée, c'était un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais lire le troisième verset. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal dire, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval, qui était roux. Il lui fut donné la puissance d'ôter la paix de la terre, afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Maintenant, une chose mystérieuse, lorsque l'être vivant dit à Jean, viens et vois, il ne voyait pas ce que c'était, il a simplement vu un symbole. Et ce symbole, la raison, il a dit, viens et vois. Mais il a vu un symbole qu'il devait symboliser à l'Église d'une manière où il veillerait jusqu'à ce que ce soit arrivé au dernier âge. Et alors, les sceaux seraient ouverts. Est-ce que tout le monde comprend cela maintenant? Les sceaux seraient ouverts. N'êtes-vous pas heureux de vivre en ce jour-ci? Vous voyez, pas seulement ça, les amis, mais souvenez-vous toujours maintenant, dimanche passé, au matin, lorsque tout a été basé sur la simplicité. Simple, humble. Ça arrive d'une telle manière que les gens passent à côté et ne reconnaissent même pas que c'est arrivé. Et souvenez-vous, nous nous attendons à la venue du Seigneur, n'importe quand. Et quand nous avons fait une déclaration que peut-être l'enlèvement, ce serait de la même manière. Ce sera passé, terminé, et personne n'en saura rien. Ça va arriver comme ça, vous voyez? Habituellement, si vous retournez dans la Bible, vous voyez comment les choses se passent. Même pour un événement aussi important que la première venue de Jésus, personne n'en savait rien. Ils pensaient, c'est un maniaque. Les églises disaient, c'est un fanatique. Il est vraiment fou. Ils disaient, c'est un démon. Vous savez qu'un démon, ça veut dire un fou. Nous savons que tu as un démon qui t'a rendu fou. Tu essaies de nous enseigner alors que toi, tu es né un enfant illégitime. Tu es né dans la fornication et tu essayes d'enseigner des hommes comme nous, des prêtres, sacrificateurs, les gens du temple. Oh, c'était une insulte pour eux. Quand Jean est venu, on en avait parlé tout au long des âges, d'Ésaïe à Malachie. C'est 712 ans que les prophètes avaient vu qu'il devait venir. Tout le monde l'attendait. Il s'y attendait n'importe quand. Mais la manière dont il est venu, il a prêché, il a accompli son service, il est entré dans la gloire, et même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Car ils ont questionné Jésus en disant, le Fils de l'homme va à Jérusalem et toutes ces choses doivent arriver. Il dit, pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus a répondu, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et il a fait exactement ce que les Écritures disaient qu'il ferait. Et ils l'ont traité exactement comme ils l'ont voulu. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Mais il a dit, c'était Jean. Oh, voyez, ils se sont réveillés. Même à la fin, après tout ce qu'il avait fait, et les signes qu'il leur avait montrés, ils avaient même dit, qui peut me convaincre de péché, d'incrédulité, si je n'ai pas fait exactement ce que les Écritures disaient, que mon office accomplirait quand je viendrai sur la terre, alors montrez-moi où j'ai péché. Oui. Et je vais vous montrer ce que vous êtes censé être, si vous le croyez ou non. Et il est revenu en disant, vous êtes censé croire en moi quand je reviens. Ils ne l'ont pas fait, vous voyez. Ils préféraient essayer de le prendre en défaut. Mais il a dit, qui de vous me convaincra d'incrédulité? Vous voyez, n'ai-je pas fait exactement ce que je devais faire? Et même les apôtres ont trébuché. Finalement, ils ont dit, maintenant, nous croyons. Nous croyons. Personne ne doit te dire parce que tu connais toutes choses. J'aurais bien aimé voir son visage à ce moment-là. Il a dû les regarder en disant, « Eh bien, vous croyez maintenant ?» Finalement, l'aube s'est levée. C'est probablement qu'il ne devait pas en être ainsi à ce moment-là. Dieu fait que tout doit concourir au bien. Je l'aime pour cela. Maintenant, nous pensons à notre âge, car nous devons parler, sinon nous ne comprendrions rien à ces sceaux. Maintenant, souvenez-vous, je reçois beaucoup de requêtes, de prières pour les malades, et chaque fois je prie pour chaque requête, je reçois pour les mouchoirs et ces choses, et si nous pouvons terminer ces sceaux jusqu'au dernier sceau dimanche matin, si c'est la volonté de Dieu, nous aimerions avoir ici une bonne réunion de guérison à l'ancienne mode, où nous prenons toute la matinée pour prier pour les malades. Et je suis assez sûr que ce sera une réunion étrange. J'en ai le sentiment. Ainsi, pas étrange, mais peut-être un peu étrange pour certains. Maintenant, combien grande est la grâce de Dieu de nous révéler ses secrets en ce jour. Maintenant, nous croyons tous que nous vivons dans les derniers jours. Nous croyons cela. Et souvenez-vous que les secrets devaient être révélés dans les derniers jours. Et comment révèle-t-il sa parole, ses secrets, la Bible? Aimeriez-vous lire où il le dit? Prenons et voyons comment il révèle ses secrets. Je veux que vous lisiez Amos. Prenez le livre d'Amos. Je veux que vous lisiez au troisième chapitre d'Amos, verset 7. Très bien. Je vais lire le verset 6 aussi. Sonnera-t-on la trompette dans une cité que les gens ne soient pas effrayés? Y aurait-il du mal dans une ville et que le Seigneur ne l'ait pas fait? Certainement, le Seigneur ne fera rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, dans les derniers jours, il nous est prédit que se lèverait un prophète. Maintenant, nous savons que nous avons toutes sortes, je réalise, ce soir, où il y a des étudiants qui sont assis, et j'aimerais que vous compreniez, réalisez que ces bandes vont partout dans le monde. Et en aucune manière, je ne veux pas que vous pensiez que j'essaye d'injecter une secte ou des manteaux d'Élie ou toutes ces choses, que nous avons tant de ces choses. Mais vous savez, toutes ces choses, c'est simplement le précurseur de la chose réelle qui doit venir pour faire sortir les gens. Vous savez qu'il y avait des faux conducteurs, des faux messies avant que Christ ne vienne. Est-ce que le docteur de ce jour-là, le puissant docteur Gamaliel, la question est venue de battre ces hommes. Il a dit, laissez-les tranquilles. Si c'est de Dieu, eh bien, vous courez le risque d'avoir combattu contre Dieu, si ce n'est pas de Dieu. Et dernièrement, un homme ne s'est pas levé pour amener 400 hommes dans le désert, et ainsi de suite. Nous connaissons cela. Qu'est-ce que c'était? Tout cela était un précurseur de la chose réelle qui devait venir. Maintenant, voyez, c'est Satan qui les suscite. Regardez la perfidie de ce gars dont nous parlons ici, de Satan, que nous sommes en train de dévoiler maintenant. Voyez, nous le mettons à nu au moyen des Écritures et nous voyons ce qu'il est. C'est ce que nous sommes censés faire. Et jamais, Satan n'a jamais essayé d'être un communiste. C'est un antichrist. Si proche au point que Jésus a dit qu'il séduirait les élus même. Et ce sont ceux qui sont cachés sous ces sceaux, dont les noms sont écrits dans le livre depuis la fondation du monde. C'est un gars rusé. Et quand il voit cette chose arriver, qui arrive là, alors il jette tout ce qu'il peut pour essayer de les renverser. Savez-vous qu'il y aurait des faux Christ qui s'élèveront dans les derniers jours? Ça devrait suivre immédiatement, après ce grand message que ce frère proclamera, qu'il viendra réellement. Il sera loin de l'esprit d'Élie, immédiatement. Et ils vont se tromper à ce sujet, ils vont penser que c'est le Messie. Mais il va dire strictement non, parce que ça doit se passer comme avec Jean, au temps de Jean, le Baptiste, quand il est sorti pour prêcher, il lui a dit, « N'es-tu pas le Messie? Est-ce que ce n'est pas toi? » Il a dit, « Je ne le suis pas. Je ne suis pas digne de délier ses chaussures. » Mais moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jean était tellement sûr que le Messie était sur la terre, il disait, il est quelque part au milieu de vous maintenant. Mais il ne l'a pas reconnu jusqu'à ce qu'il ait vu le signe descendre sur lui. Quand il a vu cette lumière descendre, venir comme une colombe et se poser sur lui, il a dit, le voici. Mais Jean est le seul qui l'a vu. Jean était le seul à entendre la voix. Tous les autres qui étaient présents, personne ne l'a entendu. Par contre, quand le vrai serviteur apparaît, toutes les imitations sont là pour bouleverser la pensée des gens. C'est Satan qui fait cela. Et ceux qui ne peuvent discerner le vrai du faux, eh bien, ils trébuchent, ils sont renversés. Mais pas les élus. La Bible dit que Satan ne serait pas capable de séduire les élus. Et juste avant la venue de Christ, la Bible dit qu'il s'élèverait de faux Christ, qui prétendrait être le Christ. Et les gens diront, voici, il est dans le désert, ne croyez pas. Voici, il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Oui, il apparaîtra, et ce sera une chose universelle. Et maintenant, bien sûr, ils découvriront que quelque chose est arrivé. Et souvenez-vous que cela arrivera immédiatement après que l'Église soit rentrée à la maison, après l'enlèvement. Maintenant, il y aura des fausses imitations tout le temps et nous ne voulons pas être connectés à n'importe quoi comme ça. Non, monsieur. Et je crois que lorsque cette personne viendra, celui-là, qui est prédit venir, et je vous le montre uniquement par les Écritures, que cet homme devra être un prophète. Il le sera certainement, car la révélation de Dieu, la parole du Seigneur, vient à ses prophètes. Exactement vrai. Et Dieu ne peut pas changer, vous voyez. S'il avait un meilleur système, il l'aurait utilisé. Mais il a choisi le meilleur système au commencement. Tout comme il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'Évangile. Il aurait pu choisir la lune, il aurait pu choisir le vent. Mais il a choisi l'homme. Et ce ne sont pas des groupes qu'il a choisis, mais des individus. Vous voyez? Et jamais, il n'y a jamais eu deux prophètes en même temps sur la terre, des prophètes majeurs. Chaque homme est différent. Il y a une constitution différente. Si Dieu peut avoir quelqu'un, on a tout ce qu'il lui faut dans sa main, alors il fera ce qu'il veut. Il lui faut simplement en avoir un. Au jour de Noé, d'Élie, au jour de Moïse, beaucoup se sont levés au temps de Moïse, vous savez ce qu'ils disent. Tu n'es pas le seul homme saint du groupe, Dathan et Coré. Dieu a dit, séparez-vous simplement d'eux, je vais ouvrir la terre et les engloutir. Et ainsi, et alors, le peuple murmurait, il dit, je vais tous les éliminer. Alors Moïse a pris la place de Christ, il s'est jeté dans la brèche, il a dit, ne le fais pas, Seigneur. Bien sûr, après avoir oint Moïse pour faire cela, il ne fera pas Moïse parce qu'à cette occasion, il avait agi comme Christ. C'était Christ en Moïse, absolument. Maintenant, nous sommes si heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous. Je crois que le grand jour commence à poindre, les lumières commencent à briller, les oiseaux du paradis commencent à chanter, le même chant, ils savent que ça ne peut plus durer longtemps maintenant, quelque chose va arriver, il le faut. Ainsi, s'il ne fait rien, maintenant, toutes les Écritures sont inspirées. Les Écritures doivent absolument être la vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec nos amis de l'Église catholique. Je crois que ce n'a pas été écrit simplement par l'homme. Je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit et toutes ces petites choses qu'on y a ajoutées, qu'on a essayé d'y ajouter. Vous remarquez qu'au moment du dénouement, chacune d'elles est rejetée. Par contre, ces écritures réelles, véritables, s'ajustent les unes avec les autres. Il n'y a aucune contradiction en aucune manière. Montrez-moi une œuvre littéraire où aucun passage n'en contredise plus ou moins un autre. Et la Bible ne se contredit nulle part. J'ai entendu toutes les critiques à ce sujet, mais je demande depuis longtemps qu'on me montre où il y a des contradictions. Il n'y en a aucune. C'est simplement parce que l'esprit de l'homme est dans la confusion. Mais Dieu n'est pas dans la confusion, il sait ce qu'il fait. Regardez, si Dieu devait juger le monde par le moyen d'une église, comme le dit l'Église catholique, Très bien. Alors, quelle église est-ce? Regardez simplement les églises que nous avons. Nous en avons 900 organisations différentes. L'une enseigne de cette manière et l'autre d'une autre. Quelle confusion! En sorte que n'importe qui peut faire exactement ce qu'il veut et on continue de toute façon. Dieu doit avoir un étendard. Et c'est sa parole. Je ne vais pas m'en prendre au seul catholique maintenant, parce que chez les protestants, c'est tout aussi mal. Mais je parlais avec un prêtre et il me disait, Monsieur Branham, il a dit, Dieu est dans son église. J'ai dit, Monsieur, Dieu est dans sa parole et il est la parole. Il a dit, eh bien, l'église est infaillible. J'ai dit, il n'a pas dit cela, mais il a dit que la parole est infaillible. Il a dit, eh bien, nous avions l'habitude d'enseigner le baptême de cette façon, etc. J'ai dit, quand? Et il me dit, autrefois, dans les premiers jours, j'ai répondu, pensez-vous que c'était l'église catholique? Il me dit, oui. Alors il dit, alors je suis catholique, un catholique à l'ancienne mode. Je crois à la manière de l'ancienne mode. Vous autres, aujourd'hui, vous avez tout mélangé, vous n'enseignez pratiquement rien de ce qui se trouve dans les Écritures, l'intercession des femmes et des morts et toutes ces choses. Oh là là, et vous enseignez à ne pas manger de la viande, et je ne sais pas quoi encore. Et j'ai dit, trouvez-moi ça dans les Écritures. Il a dit, il n'est pas nécessaire que ça soit là. Du moment que l'Église le dit, ça suffit. Peu importe ce que dit la parole, c'est ce que l'Église qui compte. Et j'ai dit, la Bible dit que quiconque ajoute un mot ou retranche un mot, sa part sera retranchée du livre de vie. Ainsi c'est la parole, et je crois la parole. Maintenant, et souvenez-vous, si c'est Amos a dit, les Écritures qui vont avec cela, et souvenez-vous, nous ne faisons que de parler des points saillants. Oh là là. Et que je vais dans cette chambre là-bas, et que cette onction descend, si je pouvais écrire tout ce qui se passe, oh, je resterai ici 3 mois sur un seul de ces sceaux. Ainsi, je ne fais que de parler de ces endroits, révélant juste ce qu'il faut afin que les gens ne soient, j'en dis suffisamment pour ne pas les blesser, mais juste assez pour qu'y croyant, ça puisse mûrir en eux. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, faites bien attention à ceci. Si Dieu ne fait rien, a dit Amos, avant de l'avoir révélé premièrement à ses serviteurs, les prophètes, et alors, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Alors, c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose. Il est en train de révéler maintenant. Dieu est sur le point à entrer en scène pour le jugement. Il est sur le point de faire quelque chose. Et encore quelque chose qui témoigne certainement que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes à la fin de l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'Église, maintenant. Car ces choses ne devaient être révélées que dans les derniers jours. Pensez à cela maintenant. J'essaie simplement de faire pénétrer cela. Ce que nous croyons que le Saint-Esprit veut que nous sachions. Maintenant, souvenez-vous, rien ne doit être révélé. Dieu ne fera rien du tout. Jusqu'à ce que, premièrement, il révèle à ses serviteurs les prophètes. Et avant de faire quoi que ce soit, il le révèle. Et lorsqu'il le révèle, vous pouvez vous souvenir de ceci, quelque chose est en route. Voyez? Ça a été révélé. Et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour, juste avant la dernière trompette, à la fin du message du dernier âge de l'Église. C'est exact. Si vous voulez lire cela, vous pouvez prendre, j'ai fait référence hier soir 2 ou 3 fois, dans Apocalypse 10, de 1 à 7, vous voyez. Et au jour du retentissement du message du 7e ange, le mystère de Dieu serait révélé et terminé. Et il ne reste plus qu'une chose lorsque ce livre des 7 sceaux est ouvert. Alors, le mystère entier de Dieu, nous l'avons sondé pendant des années, mais selon les Écritures, il n'était pas possible de le comprendre jusqu'à ce jour. Parce que ça a été caché. Nous avons vu le symbole, ce qui a été symbolisé, mais ça ne pouvait pas être correctement révélé avant le dernier jour. Maintenant, nous devons être là, au temps de la fin, maintenant. Souvenez-vous, et n'oubliez pas maintenant qu'il ne fait rien avant de le révéler. Et n'oubliez pas aussi qu'il le fait d'une façon si simple que les sages et les intelligents le manquent. Si vous voulez le marquer, c'est Matthieu 11, 25, 26. Et souvenez-vous qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé, et il le révèle d'une façon telle que les intelligents, les instruits le manquent. Souvenez-vous que c'était la sagesse que le monde désirait au lieu de la parole quand le premier péché a fait ce qu'il a fait. N'oubliez pas cela maintenant. Oh, combien reconnaissants nous devrions être de penser à cela. Maintenant, regardez aux choses qui sont arrivées. Regardez les choses dont il nous a parlé. Regardez ici dans ce tabernacle, vous, les gens qui avez grandi avec cela. Maintenant, je vais demander au sujet des bandes magnétiques. Très bien, continuez à enregistrer. Je vais simplement dire ceci au tabernacle. Vous qui êtes ici, je vous mets en demeure, chacun de vous, au nom du Seigneur Jésus, de mettre votre doigt sur une chose parmi les centaines de choses qui ont été dites avant qu'elles n'arrivent et de me dire qu'elles ne sont pas arrivées. Dites-moi, une seule fois, ou sur cette chair, ou n'importe où ailleurs, où il n'ait jamais dit quelque chose, qu'il ne se soit pas accompli exactement comme ça. Comment la pensée humaine pourrait-il être ainsi? Ce n'est pas possible. Quand il est apparu là, à la rivière, il y a 33 ans, en juin prochain, sous la forme d'une lumière, vous les anciens, vous vous souvenez ce que je vous disais depuis que je suis un garçon, que cette voix, cette lumière, elle m'est apparue. Et les gens pensaient que j'étais un peu malade de la tête. Certes, j'aurais probablement pensé la même chose si quelqu'un me l'avait dit. Mais maintenant, vous n'avez plus à vous étonner de cela. Et l'Église ne nous a pas s'étonner depuis 1933, là au bord de la rivière où je baptisais des centaines de personnes. Je me souviens du jeune Mayer qui m'avait dit, « Tu vas leur faire boire la tasse, Billy. » C'était le petit Jim Mayer. Je pense qu'il est mort maintenant. Je crois qu'il a été tué par une femme qui lui a tiré dessus. Il m'avait demandé, « Vas-tu faire boire la tasse à ces gens ?» J'ai dit, « Non, monsieur, je vais les baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Et il y avait une femme qui était là dans le groupe. Elle a dit à une autre femme, elle a dit, moi, ça m'était égal de boire la tasse. Et je lui ai dit, retirez-vous et repentez-vous, vous n'êtes pas en état d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. C'est l'évangile de Christ, révélé par une conviction, la parole. Et vous dites simplement non-sens et sottise. Il se peut que vous l'ayez dit pour autre chose, mais souvenez-vous, il est promis dans la parole que ceci arriverait. Et juste exactement ce que ce serait. Et voici. Et alors ce jour-là, alors qu'il était debout là au fleuve, l'ange du Seigneur dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile dans le lointain, il s'est approché comme une lumière émeraude et il est venu là, là au fleuve, là où j'étais en train de baptiser. Et des hommes d'affaires là dans la ville ont dit, qu'est-ce que ça signifie? Et je leur ai dit, ce n'était pas pour moi, mais c'était pour vous. C'est dans votre intérêt que Dieu a fait cela, pour vous faire savoir que je vous dis la vérité. Mais je n'étais qu'un jeune homme, un garçon d'environ 21 ans, et il n'aurait pas cru parce que c'était trop, ça, pour un jeune homme. Et Frère Robertson, l'un de nos administrateurs ici, je l'ai vu il y a quelques minutes, il me disait l'autre jour qu'il était à Houston lorsque la photo fut prise, là où vous vous souvenez, et j'étais dans ce débat-là. Frère Roy était un autre homme, avec un autre homme, la seule personne du groupe à avoir un enregistreur, c'était un assez vieux modèle à fil. Je vois Mme Robertson là. Mme Robertson était malade, je les vois tous les deux ici. Frère Roy était un ancien combattant. Ses jambes avaient été mutilées dans une explosion. Il avait été laissé pour mort. Il était un officier dans l'armée. Les 88 Allemands avaient touché le tank dans lequel il se trouvait et il l'avait apparemment tué. Il était dans un état tel que pendant un bon moment, on l'avait laissé pour mort. Les médecins disaient qu'il ne pourrait plus jamais marcher parce qu'il avait été grièvement blessé aux deux jambes, les nerfs, etc. avaient été touchés. Et maintenant, il marche presque mieux que moi. Mais qu'est-ce que c'était? Quelque chose qu'il avait vu. Il est allé à Houston. Il me parlait de son épouse. Il allait mettre ça dans les bandes magnétiques. Il allait le passer pour vous tous, j'espère. Un vieil enregistreur pour une réunion là à Houston. Et sa femme s'est aperçue l'autre jour qu'elle avait été enregistrée. Elle était tellement malade, triste. Elle voulait entrer dans la ligne de prière. Il ne me connaissait pas. Je ne les avais jamais vus. Ainsi, ce jour-là, elle était assise près d'une fenêtre en train de regarder, désolée, bouleversée, désirant tellement avoir une carte de prière pour entrer dans la ligne de prière. Et je crois qu'elle put y entrer ce soir-là ou le soir suivant. Elle est entrée dans la ligne de prière, et quand elle est arrivée à la chaire, le Saint-Esprit lui a dit, « Vous n'êtes pas d'ici, vous venez d'une ville appelée New Albany. » Et il a dit, vous étiez assise près d'une fenêtre aujourd'hui en train de regarder avec de l'anxiété comment obtenir une carte de prière. Et tout ça est enregistré là depuis des années. Et alors au début de la réunion, lorsque le Saint-Esprit était là, la première réunion, nous n'avions que 3000 personnes et puis nous en avons 8000 et puis même 30 000. Alors que je parlais dans l'une des premières réunions, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je dis ceci, et tout ça est sur bande, mais ceci sera l'un des points culminants de mon temps. Quelque chose va arriver pendant cette réunion, ce sera plus glorieux que n'importe qui ait vu, et faire 8 ou 10 jours plus tard, l'ange du Seigneur est apparu devant environ 30 000 personnes. Il est descendu et la photo fut prise. Ici, elle a été authentifiée à Washington comme étant la seule présence surnaturelle qui ait jamais été photographiée dans le monde. Alors, j'en avais parlé. Et parfois, sous le discernement, je dis, une femme est couverte de l'ombre de la mort. Il y a un épais capuchon d'ombre. Elle va mourir. Et je crois que c'était à Southern Pines lors de la dernière réunion. Une petite dame était assise là et quelque chose lui a dit de prendre vite une photo. Et là, c'était là. Je crois qu'elle sera affichée là au panneau. On voit ce capuchon noir sur la dame. La dame qui photographiait a pris un autre cliché aussitôt que le Saint-Esprit a parlé. Et c'était parti. Le Seigneur vous a guéri. Le cancer est parti. Et là, et elle fut guérie. Vous y voilà. Vous voyez? Cela vous montre simplement que Dieu sait le temps du jour où nous sommes. Nous devons simplement obéir. Nous pourrions continuer à parler comme ça, mais reprenons maintenant ce sceau afin que nous puissions le relier au suivant. Pendant quelques instants maintenant, nous allons revoir le premier sceau. En brisant le premier sceau, nous avons remarqué que Satan à un homme super religieux. Avez-vous remarqué cela? Ce cavalier au cheval blanc. Ce qu'ils pensaient, c'était la première église qui s'avançait. Oh, on a enseigné ça pendant des années, mais ça ne pouvait pas être. Observez les autres lorsque nous les aurons tous reliés ensemble, et vous verrez alors où nous en sommes. Et pour le moment, je ne sais pas ce que seront les autres. Mais je sais que cela doit concorder parfaitement parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'était la hiérarchie de l'Église de Rome. Exactement. Ces gens qui pensent que les Juifs sont les antéchrists, ils sont certainement à des millions de kilomètres de la vérité. Ne pensez jamais que les Juifs soient des antéchrists. Leurs yeux ont été aveuglés intentionnellement afin que nous puissions avoir un moyen d'entrer, qu'un temps de repentance nous soit donné. Mais l'Antéchrist vient des nations. Certainement, il est un imitateur de la vérité. Anti, ça veut dire contre. Maintenant, ce grand Superman, surhomme. Oh, comment il devient un grand homme, et finalement, il est mis sur un trône, et après avoir été mis sur un trône, il est couronné. Et après cela, il était adoré au lieu de Dieu. Maintenant, regardez. Avant que ça n'arrive, je vais vous poser une question. Qui était-ce? À quoi Paul faisait-il allusion dans 2 Thessaloniciens 2-3 lorsqu'il disait que cet homme viendrait? Pourquoi cet homme a-t-il regardé tout au long des âges? Et c'était le prophète de Dieu. Il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il abandonnerait la foi et qu'il s'attacherait à des esprits séducteurs. Vous savez ce que c'est? Séduire un esprit séducteur dans l'Église. C'est le clergé. Un esprit séducteur du clergé, des œuvres des démons, l'hypocrisie dans l'Église. Hautain, emporté, la sagesse, vous voyez. Intelligent, rusé, ayant une forme de piété. Eh bien, nous sommes des chrétiens, nous devons aller à l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les révélations, la puissance, l'œuvre du Saint-Esprit. De telles personnes, détournez-vous. Remarquez ce qui est écrit. C'est la sorte de gens qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Maintenant, pas des femmes remplies du Saint-Esprit, mais des femmes d'un esprit faible qui sont chargées de convoitises de toutes espèces, elles aiment partout, s'introduisent dans toutes sortes de sociétés, vivent comme elles l'entendent, et puis dire, nous allons à l'église de toute manière. Elles vont à des danses, des soirées, elles se coupent les cheveux, elles se fartent, s'habillent comme elles veulent. Vous savez, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes aussi bien que n'importe qui. Oh, vos propres œuvres vous identifient. Remarquez, il a dit, des hommes d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole qui est Christ. Oh, vous persécutez les femmes, vous haïssez les femmes, vous faites ceci, cela. Non, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose de faux. Je ne hais pas les femmes. Certainement, elles sont mes sœurs, si ce sont des sœurs. Mais l'amour est correctif. S'il n'est pas correctif, ce n'est pas l'amour. Si c'est un amour filéo et pas l'amour agapao, ça je vais vous le dire. Vous pourriez avoir un peu d'amour filéo pour une femme, une jolie femme, mais l'amour agapao, c'est quelque chose de différent. C'est un amour qui redresse les choses et fait rencontrer Dieu de l'autre côté, quelque part où nous pourrons vivre éternellement. Je ne m'exprime peut-être pas bien, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Maintenant, mais souvenez-vous, ce qui est écrit comme Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse. De même, eux. Mais leur folie sera bientôt manifestée. Pourquoi? Lorsque Moïse a reçu la commission de faire quelque chose qui semblait radical, mais il le fit aussi honnêtement que possible, et Dieu lui a dit de prendre son bâton et de le jeter par terre, qu'il deviendrait serpent, et il l'a fait pour montrer ce qui arriverait. Et devant Pharaon, Moïse s'est tenu là comme Dieu lui avait commissionné, et il a jeté son bâton, et il s'est transformé en serpent. Sans aucun doute, Pharaon a dit, « Oh, c'est juste un vulgaire tour de magicien. » Alors il fit appeler Jannès et Jambrès, qui dirent, « Nous pouvons faire la même chose. » Et ils ont jeté leur bâton, et ils sont devenus des serpents. Maintenant, que pouvait faire Moïse? Qu'est-ce que c'était? Ça lui montrait que pour chaque chose authentique de Dieu, le diable a un imitateur. Il imite afin de jeter le peuple hors de la bonne voie. Que fait-il? Moïse a-t-il dit, eh bien, je suppose que j'ai fait une erreur. Non, il est simplement resté tranquille, il n'a pas bougé car il avait accompli sa mission à la lettre. Alors, tout à coup, le serpent de Moïse avala les autres serpents. Vous vous êtes jamais demandé ce que devinrent les autres serpents? Où allèrent-ils? Moïse a ramassé son bâton et il est parti avec. Et il a fait des miracles. Et ces serpents étaient à l'intérieur de l'autre serpent. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui. L'Antéchrist vient à la vie graduellement. Je veux que vous remarquiez cela. Maintenant, je m'adresse à vous, mes amis catholiques. Restez tranquilles un instant. Ensuite, nous verrons où en sont les protestants, où nous en sommes tous. Remarquez. La première église, lorsque l'église catholique a dit qu'ils étaient la première église originelle, exactement vrai. Ils l'étaient. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là où ils ont commencé, l'église catholique. Autrefois, je pouvais à peine le croire, jusqu'à ce que j'ai lu les livres d'histoire. Alors, j'ai découvert que c'était vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Mais ils ont commencé à dériver. Et voyez où ils en sont? Et si le mouvement de Pentecôte dérive à la vitesse avec laquelle il le fait maintenant, ils n'auront pas besoin de 2000 ans. Dans 100 ans, ils seront plus éloignés que l'Église catholique. C'est vrai. Mais remarquez, comment ce cavalier au cheval blanc, c'est juste un petit arrière-plan ici pour atteindre ce saut, maintenant regardez, le cavalier au cheval blanc, quand il est sorti, il sert en trois étapes. Le diable, comme je vous l'ai prouvé l'autre soir, est dans une trinité semblable à celle de Dieu. Mais c'est toujours le même diable tout le temps, en trois étapes. Remarquez ces étapes. À la première, il entre, le Saint-Esprit descend et les gens avaient tout en commun. L'Esprit de Dieu était sur eux et les apôtres allaient de maison en maison, rompant le pain avec les gens, et il y avait de grands signes, des prodiges qui étaient accomplis. Et tout à coup, Satan commença à susciter des murmures. Quelque temps après, ses esclaves et les pauvres du pays qui avaient reçu le Saint-Esprit allèrent témoigner à différents endroits, ils témoignèrent à leur maître. Et peu après, on vit venir des gens tels que des capitaines de l'armée et d'autres personnes, des célébrités, qui commencèrent à voir la vaillance de ces hommes, ainsi que les miracles et les signes que ces hommes faisaient. C'est alors qu'ils acceptèrent le christianisme. Mais puis, quand quelqu'un embrassait le christianisme, il allait dans les lieux où se tenaient les réunions, dans des petites salles obscures, il tapait des mains, il poussait des cris, il parlait en langue, il recevait des messages, mais il n'aurait jamais osé apporter cela à ses collègues ou à ses relations d'affaires, dans ses affaires, il n'aurait jamais cru comme cela, certainement. Donc, il fallait arranger les choses. Alors, ils commencèrent à se réunir, ils commencèrent à penser, maintenant, nous allons former quelque chose d'un peu différent. Et Jésus, immédiatement, après le premier âge de l'Église, leur a dit, dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse, « J'ai quelque chose contre toi, à cause ces œuvres des Nicolaïtes. » Nico, conquérir les laïcs. En d'autres termes, au lieu que tout le monde soit un, ils voulaient fabriquer un saint personnage. Ils voulaient modeler leur religion sur ce paganisme dont ils étaient sortis, et finalement ils l'ont fait. Maintenant regardez. Premièrement, le nicolaïsme. Le nicolaïsme fut appelé dans la Bible Antichrist parce qu'il était contre la doctrine originelle de Christ et des apôtres. Je ne veux pas nommer cet homme. C'est un homme important. Mais j'étais à sa réunion ici il y a quelques années et il savait que j'y étais parce que je lui avais serré la main. Et il a dit, vous savez, nous avons aujourd'hui ceux qu'on appelle les pentecôtistes. Et il disait, il s'appuie sur le livre des Actes. Et il disait, mais voyez, ce livre n'est que l'échafaudage de l'Église. Pouvez-vous imaginer un homme qui a étudié la Bible, un brave homme, et qu'il a fait en faisant une telle remarque, une remarque comme cela? Ça ne sonne même pas comme le Saint-Esprit, ça ne se trouve nulle part. Parce que quiconque a du simple bon sens reconnaîtra que les actes des apôtres n'étaient pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et savez-vous pas comment nous avons symbolisé dans les âges de l'Église ces êtres vivants qui se tenaient là, surveillant cette arche, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et dans ce livre, se trouve décrit de ce qui arriva comme résultat des écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est l'arbre qui produit sa première branche, c'est ce qui est arrivé. Si jamais cet arbre pousse une autre branche, on écrira un autre livre des Actes après celui-là. Ainsi, vous voyez qu'il doit y avoir la même vie dans la même chose. Aujourd'hui, lorsque nous regardons nos églises dénominationnelles, méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, églises de Christ, soi-disant, et pentecôtistes, où les trouvons-nous? Vous ne les trouvez pas. J'admets que les pentecôtistes, qu'on trouve que c'est ce qui se rapproche le plus, parce qu'ils sont ici dans l'âge de l'église de Laodicée. Ils avaient la vérité, mais ils l'ont rejetée. Ils sont devenus tièdes. Et Dieu les a vomis de sa bouche, exactement, en accord avec les Écritures. Vous ne pouvez pas faire mentir les Écritures, non. Elles seront toujours véridiques. N'essayez pas de faire aligner les Écritures avec votre pensée. Mais alignez-vous vous-même sur les Écritures. Alors vous marcherez avec Dieu. Peu importe le nombre de choses que vous devrez retrancher ou laisser de côté, alignez-vous sur cela. Voyez ce qui est arrivé lors de la première chute. Eh bien, si Dieu agit ainsi la première fois, il faut qu'il agisse ainsi de la deuxième manière, la deuxième fois. Il doit agir ainsi chaque fois. Ou alors il se serait trompé la première fois. Voyez-vous, nous en tant que mortels, nous pouvons faire des erreurs, mais Dieu pas. La première décision de Dieu est parfaite. Et s'il agit une fois d'une façon, il ne peut pas y avoir de meilleure manière, il ne peut pas améliorer, parce que c'est parfait dès le commencement. Si ce n'était pas ainsi, alors il ne serait pas infini. S'il est infini, alors il est omniscient. S'il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Il doit être tout cela pour être Dieu. Vous ne pouvez pas dire, il a appris davantage. Il n'a pas appris davantage, car il est la source, la fontaine même de toute sagesse. Notre sagesse ici vient de Satan. Nous l'avons héritée du jardin d'Éden, où nous avons troqué la foi contre la sagesse. C'est Ève qui a fait cela. Il fut premièrement appelé Antichrist. Dans la deuxième étape, il fut appelé le faux prophète, parce que cet esprit, parmi les gens, s'incarne. Souvenez-vous, le cavalier au cheval blanc n'avait pas de couronne quand il a commencé. Mais ensuite, il lui fut donné une couronne. Pourquoi? Parce qu'il était l'esprit du nicolaïsme au commencement. Et puis, il s'est incarné dans un homme, et alors, il a été couronné, et il a reçu un trône. Il a été couronné. Et alors, il a servi comme cela pendant longtemps, comme nous le verrons en brisant les sceaux, et nous découvrons que, longtemps après, Satan est chassé des cieux. Et il descend sur les Écritures, et il s'intronise lui-même. Pensez-y, il s'intronise dans cet homme, et il devient alors une bête. Et il avait la puissance suprême pour faire toutes des miracles et tuer, livrer des batailles sanglantes et tout ce que Rome pouvait produire. Très bien. Il a tué par le moyen de répression cruelle de Rome. Combien de passages des Écritures pourrions-nous mentionner à ce sujet? Souvenez-vous que Jésus-Christ est mort sous la punition de Rome, la peine capitale. Le message que j'ai à cœur de prêcher ici lors de la réunion de vendredi saint, après-midi, c'est quatre choses. Oui. Là, ils le crucifièrent. Là, à l'endroit le plus saint du monde, le plus religieux, Jérusalem. Ils, le peuple censé être le plus saint du monde, les Juifs. Là, ils le crucifièrent, le châtiment le plus cruel que Rome pouvait produire, le crucifièrent, lui. Comment? La personne la plus glorieuse qui ait jamais vécu. Là, ils le crucifièrent. Oh là là, que Dieu m'aide à faire pénétrer ces choses dans ce groupe d'hommes d'affaires, afin de leur montrer dans quelle situation ils se trouvent. Ce n'est pas que je veuille être différent des autres, ni être désagréable, mais c'est pour les secouer, ces frères, pour qu'ils puissent comprendre que leur dignitaire et leur saint-père et autres dont ils parlent dans le journal des hommes d'affaires, c'est un non-sens. Les chrétiens ne doivent pas donner le nom de père à aucun homme. J'ai essayé de les aider autant que j'ai pu. Vous voyez où vont ces bandes. Mais c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cela. Très bien. Premièrement, souvenez-vous, Christ. Premièrement, Nicolaïsme. et que voulaient l'âge nicolaïte? Ils voulaient s'éloigner de ce groupe de gens qui criaient, qui tapaient des mains, qui se conduisaient d'une manière apparemment choquante, comme ils le firent à la Pentecôte, agissant comme des hommes ivres, chantant sous l'action de l'Esprit. Ils ne voulaient rien de tout cela, ils disaient que c'était des gens ivres. Et lorsque les célébrités écoutaient, ne le manquez pas, ça peut sembler insensé pour vous, mais c'est la vérité. Lorsque les dignitaires commencèrent à venir, ils ne purent s'abaisser jusqu'à cela. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser. C'est ce qui fait sa grandeur. Il n'existe personne de plus grand, et il s'est abaissé plus bas que quiconque aurait pu le faire, comme personne ne l'a jamais fait. Il était le roi des cieux, et il est venu dans la cité la plus basse de toute la terre, Jéricho. Et il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait abaisser les regards pour le voir. N'est-ce pas vrai? Zachée, c'est exact. On lui a donné les noms les plus mauvais que l'on puisse donner à un homme. Sorcier, un diable, Belzébul. C'est ce que le monde pensait de lui. Il est mort de la mort la plus cruelle. Il n'avait aucun endroit où reposer la tête. Il avait été rejeté de toutes les organisations. Mais quand Dieu l'a exalté si haut qu'il dut abaisser son regard pour voir le ciel, Dieu dans l'humilité, et il lui a donné un nom si grand que toute la famille des cieux porte son nom. Et chaque famille de la terre, toutes les familles de la terre sont appelées Jésus. Toutes les familles dans le ciel sont appelées Jésus. Un tel nom que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, que ce soit ici ou en enfer. L'enfer même s'inclinera devant ce nom. Toutes choses se prosterneront. Mais premièrement, vous voyez, c'était l'humilité. Ensuite, ça devient grand. Que ce soit Dieu qui élève, celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. Ainsi, nous remarquons que ce Nico, cet esprit, voulait la sagesse, être plus intelligent. Il voulait raisonner comme Ève. C'est par le raisonnement de la sagesse opposée à la parole de Dieu. Et l'Église s'est laissée prendre. Qu'était-ce? Prenons comme exemple cette Église-ci et un groupe de personnes comme nous, et imaginons que nous ne soyons pas réellement remplis de l'Esprit. Supposons encore que le maire de la ville, M. Botoff, est-il toujours maire? M. Botoff est un de mes bons amis. Mais disons que le maire de la ville et toute sa police et tous les marshals, et remarquez la première chose qui arrive, si vous n'êtes pas, si vous dites, savez quoi, tout devrait être différent. Si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit et qu'il n'y ait pas un derrière la chair un homme rempli du Saint-Esprit, vous répondrez à leur désir. Peut-être pas cette génération, mais la suivante. Et c'est ainsi que cela a commencé, voyez. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, remarquez ici, c'est quelque chose de raisonnable. On les écouterait. Supposons qu'un homme vienne ici et dit, cette église est trop petite, construisons une grande église. Je vous en construirai une à tel et tel prix. Un demi-million de dollars seront investis dans cette affaire. Je vais le publier partout. Quand ils font cela, alors, 9 fois sur 10, ils agissent dans un but intéressé. Et la première chose que vous voyez, il dirigera les choses à sa convenance. Vous ne pouvez rien dire parce que le frère Intel, ce sont les finances de l'Église. Et puis vous aurez un petit Ricky qui vient d'un séminaire et qui a autant de connaissances des choses de Dieu qu'un Otanto de la civilisation égyptienne. Il viendra, il abondera dans le sens de ce personnage parce que celui-ci lui achètera tout le temps de nouvelles voitures et tout ce dont il a envie. C'est exactement ainsi que cela a commencé. C'est vrai. Remarquez, la sagesse et l'habileté, ils disent, allons donc, n'est-ce pas simplement raisonnable? Quelle différence cela fait-il si nos femmes se coiffent de telle ou telle manière? Mais la Bible dit que ça fait une différence. Prenez simplement cette chose-là parmi les centaines d'autres, voyez? Cela fait une différence. Dieu a dit que cela faisait une différence. Donc il y a une différence. Mais vous voyez, s'il commence à agir ainsi, le conseil des anciens, des diacres, etc., vous verrez en premier lieu que le pasteur, ou bien il y entre, ou bien il sort. Voilà tout. Ces choses-là sont introduites par un vote de l'Assemblée. Maintenant, remarquez comment cet esprit commence à se mouvoir et comment l'Église, qui avait tant de dignitaires et d'autres choses en elle, et qui avait tant d'argent, se mit bientôt à l'écouter et à s'y laisser prendre. Voilà la ruse du diable. Et c'est exactement ce que fit Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, écoutez bien cela, c'est vrai. Regardez. La femme naturelle, l'épouse d'Adam, avant qu'il ne vienne vers elle comme femme, elle s'est laissée prendre aux machinations de Satan qui s'opposait à la parole de Dieu par le raisonnement. Avant qu'Adam et Ève ne vivent ensemble comme mari et femme, Satan les a pris de vitesse. C'est vrai. Vous avez entendu ma prédication sur l'arbre de l'épouse où j'explique ces choses. Très bien. Maintenant, remarquez. Là, Ève s'est laissée prendre par le raisonnement. Satan a essayé de raisonner. Elle a dit, mais le Seigneur a dit. Il a dit, oh, tu sais, le Seigneur ne le fera certainement pas. Tu veux être sage, tu as besoin de connaître quelque chose. Tu n'es qu'une pauvre enfant ignorant, tu devrais avoir de la connaissance. Si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas quelques-uns de ces modernes, oh, ils disent que ce n'est qu'une bande de fanatiques. Oui, n'y prêtez aucune attention. Mais la première épouse naturelle de la race humaine, avant que son mari ne vienne vers elle, elle s'est laissée prendre, elle est tombée de la grâce pour avoir écouté les mensonges de Satan, alors même que Dieu l'avait déjà fortifiée derrière sa parole. Si elle était restée derrière la parole, elle ne serait jamais tombée. Maintenant, remarquez, ça c'est dans le naturel. La femme naturelle. Et quelle fut la malédiction? En fait, la malédiction fut de sortir de la parole de Dieu. Souvenez-vous, elle y croyait environ 99%. Mais il suffit de laisser simplement passer une chose. Elle en croyait une grande partie, certainement. Elle dit ceci, cela, et Satan admet que c'était juste. S'il peut simplement vous acculer dans un coin, c'est tout ce qu'il veut. Il suffit de faire dévier la balle un tout petit peu pour qu'elle manque la cible. Voyez? C'est tout. Elle croyait une grande partie de la parole, mais malgré tout, elle a manqué le but. Voyez? Et le résultat, parce qu'elle a abandonné la parole pour un petit peu de raisonnement, et vous direz, qu'en est-il des femmes? Pourquoi voulez-vous parler de choses comme cela? Quelle différence y a-t-il si le signe initial ou pas? Il y a quelque chose à cela. Il faut que ces choses soient redressées. Nous avons fait des suppositions au sujet de ces choses pendant presque toute la durée de cet âge de l'Église, mais l'heure est arrivée maintenant où Dieu le parle. Il ne fait pas qu'en parler, mais il les montre, les confirme, il les prouve. C'est vrai. S'il ne le faisait pas, alors ce ne serait pas Dieu. Voilà tout. Dieu se tient derrière sa parole. Remarquez maintenant. Maintenant, la femme naturelle a été la cause de la mort naturelle parce qu'elle a écouté les raisonnements au lieu de pour la rendre sage, au lieu de rester derrière la parole de Dieu et faire ce que Dieu lui avait dit. Elle voulait la sagesse, elle a écouté les raisonnements et elle a perdu toute la race humaine. Maintenant, cette fois-ci, la femme spirituelle, l'épouse de Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte avec l'Église primitive apostolique, elle a perdu la même chose au concile de Nicée. Lee, tu sais que c'est vrai. Au concile de Nicée, quand elle a troqué son droit d'aîné spirituel pour accepter les choses que l'empereur Constantin lui a offertes, elle a vendu son droit d'aîné scripturaire pour un paquet de dogmes romains. C'est dur à entendre pour les catholiques, mais les protestants ont fait la même chose. Ils sont représentés dans la Bible ici comme une fille de la prostituée. C'est exactement vrai, chacun d'eux. Aucune excuse. Mais hors de cela, il y a toujours eu un petit reste, tout au long des âges de l'Église, qui est destiné à former l'épouse. Elle a perdu son droit d'aînesse. Voyez, avant que son mari s'approche d'elle, voyez, avant, elle a perdu sa vertu avant le mariage. Vous vous souvenez qu'elle disait dans l'âge de Laodicée, « Je suis une reine, je suis riche, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. » L'âge de Laodicée, rempli de biens, le monde entier me regarde, je suis la grande et sainte Église, ainsi de suite. Tout l'âge, mais il a dit, « Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, misérable, pauvre, et tu ne le sais pas. » Voilà son état. Si le Saint-Esprit a dit que son état serait ainsi dans les derniers jours, c'est ainsi. Il n'y a pas moyen de le contourner, c'est ainsi. Maintenant, écoutez. Maintenant, quand elle a vendu son droit d'aînesse, le droit que lui donnait sa vertu sur la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsqu'Ève a fait cela, elle a perdu la création. Toute la création est tombée avec elle. Maintenant, remarquez. Et lorsque l'Église le fit, qu'elle accepta les dogmes au lieu de l'esprit de la parole, cela a maudit tout le système. Tout système dénominationnel qui ait jamais existé ou qui existera jamais fut maudit avec cela. Il est tombé. C'est quand un groupe d'hommes s'assemble pour faire des projets, l'un pense ainsi, l'autre autrement, et le troisième encore autrement, ils mettent tout cela ensemble, ils l'agitent bien, et voyez ce qui en sort. C'est exactement ce qu'on a fait au Concile de Nicée. C'est exactement ce qu'on a fait chez les méthodistes, presbytériens, Église de Christ et tous les autres. Et tous, quoi que Dieu leur révèle, doivent enseigner selon ce que dit leur credo, sinon, on les jette dehors. Ne me dites pas, je m'y suis trouvé, et je le sais. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est pourquoi tout le système est maudit. Il n'est pas étonnant que l'ange ait dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, que vous ne receviez pas ses plaies. » Parce qu'elle est maudite, elle devra supporter la malédiction de la colère de Dieu, parce qu'elle a vendu sa vertu et son droit. Mais, oh là là, mais souvenez-vous, dans tout cet état, mais cependant, Dieu avait fait des promesses dans Joël 2:25. Dans les derniers jours, quand il a dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le yélec l'a dévoré, ce qu'a laissé le yélec, le asile, ainsi, voyez, insecte après insecte, ils sont venus dévorer cette église, jusqu'à ce que finalement, il ne reste plus qu'une souche. Regardez, ce qu'ont laissé les Romains, les luthériens l'ont dévoré, ce qu'ont laissé les luthériens, les méthodistes l'ont dévoré, ce qu'ont laissé les méthodistes, les pentecôtistes l'ont dévoré, voyez, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche. Et vous savez quoi? Prenez tous ces vers, ce gazam, yélec et tous les autres, et poursuivez-les tout au long du livre et voyez si ce n'est pas le même vers, simplement à des stades différents. Retenez bien ce point. C'est pareil avec ces sceaux. C'est le même vers. Vous le verrez lorsque nous le ferons ressortir. C'est pourquoi je vous le dis maintenant. C'est le même vers tout le temps. Quatre petits vers. Quatre ici, c'est la même chose, c'est le même esprit. Ce que l'un a laissé, l'autre le dévore. Ce que celui-ci a laissé, cet autre le dévore. Jusqu'à ce que ça arrive à une souche. Joël a dit, « Je restaurerai, dit l'Éternel, toutes les années que la chenille a dévoré. » Qu'est-ce que c'est? Comment va-t-il le faire? Si ça a commencé antichrist, contre l'enseignement de Christ, en acceptant les dogmes au lieu de la parole, au travers des âges, les réformateurs ont sondé ces choses, mais la Bible dit que dans les derniers jours, à la voix, Apocalypse 10, 7, le mystère de Dieu serait terminé dans les derniers jours quand il sonnerait la trompette. Malachi 4 a dit qu'il enverrait Élie avant ce jour terrible qu'il arrive sur la terre lorsqu'il la consumerait comme une fournaise et qu'il restaurerait et ramènerait les enfants à la foi des pères. La foi originelle de la Pentecôte. Il a promis de la restaurer. Maintenant, c'est aussi clair que les Écritures peuvent le dire. Ça a été promis. Et nous sommes dans les derniers jours. Quelque chose doit arriver. Et c'est en train d'arriver. Et nous le voyons. Remarquez, la Trinité de Satan, la même personne, vient et se réincarne de l'un dans l'autre. C'est ainsi qu'on fait ces insectes, ces vers, passant de l'un dans l'autre. Exactement. Nicolaïsme, antichrist spirituel, l'esprit d'antichrist, pape, le faux prophète, la bête, le diable lui-même incarné. Maintenant, gardez bien cela dans votre pensée. Si vous suivez ceci, vous allez voir que ces cavaliers réalisent exactement cela. Je vais vous montrer une image. Si je pouvais dessiner sur un tableau, vous comprendriez mieux. Mais observez bien. La première chose qui arrive, c'est un esprit antichrist. Jean l'a dit. Petits enfants, l'esprit de l'antichrist travaille déjà dans les fils de la rébellion, la désobéissance. Voyez-vous, la graine commençait à pousser. Puis, elle est devenue quelque chose dont on parlait dans l'âge de l'Église suivant, et dans l'âge suivant, elle est devenue une doctrine. Et dans l'âge d'après, elle fut couronnée. Est-ce que ce n'est pas écrit clairement? De toute façon, vous pouvez le lire. Ainsi, il est venu. Premièrement, il fut appelé quoi? L'esprit antichrist, parce qu'il était contre la parole. C'est ce qui a commencé. C'est exactement ce que le système tout entier a fait, c'est se détourner de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un jour, Ève aurait donné une fessée à Caïn. C'était pas cela. Ce qui, au commencement, la chose entière, c'est qu'elle s'est détournée de la parole. Elle s'est détournée de la parole. Et la première chose qui fit commencer la prostitution dans l'Église du Dieu vivant, l'épouse de Christ, c'est qu'elle s'est détournée de la parole de Dieu et qu'elle a accepté les dogmes de Rome à la place de la parole de Dieu. Qu'est-il arrivé à chaque organisation? Ils ont fait exactement la même chose. Maintenant, mais il a promis que dans les derniers jours, il ferait un chemin pour restaurer. La parole du Seigneur viendrait de nouveau sur la terre, comme elle l'a fait au commencement, et qu'elle restaurait quoi? Ce qui avait commencé à s'opposer à la parole. Qu'est-ce que ce personnage doit faire lorsqu'il viendra? Loin de l'Esprit de Dieu, il ramène simplement la foi des enfants à celle des pères. Et c'est ainsi qu'il restaure. Et cette même parole qui est à la même place fera les mêmes œuvres. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Et lorsqu'on lui demanda de faire certaines choses, il a dit, je ne fais que ce que le Père me montre, je ne fais rien avant qu'il me l'ait montré premièrement. Ce que je vois faire au Père, je le fais également. Le Père agit et moi, j'agis pareillement. Ne le voyez-vous pas? Oh, c'est comme si on lisait dans un journal. Premièrement, il devient un antichrist, mais il ne pouvait pas être antichrist, simplement en esprit. Alors il devient antichrist, et cet esprit entre dans un homme qui enseignait les mêmes choses que l'esprit antichrist. Ensuite, il devint le faux prophète de l'esprit antichrist. Maintenant, qu'en est-il d'un homme dans une organisation? Faites comme vous voulez. Je ne sais pas ce que vous pensez. Très bien. Finalement, il devient la bête. Attendez, nous verrons cela plus tard. Très bien. Maintenant, si la Trinité de Satan se présente ainsi, c'est toujours Satan, l'esprit antichrist incarné, faux prophète, ensuite il devient la bête. Voyez? Pas un démon qui était dans cet antichrist, mais quand Satan lui-même est chassé, il descend et il prend la place où se trouvait le démon. C'est le diable en lui. Alors, le diable est incarné dans un homme. Ça ne fait que se répéter. C'est ce qui était Judas Iscariote. Et qu'est-ce qu'il a fait? Était-il un de ces hommes qui s'opposaient à Christ? Non, il était le trésorier. Il marchait avec lui. Assurément, il marchait toujours avec eux, il allait chasser les démons, il faisait exactement ce que faisaient les autres. Et Christ était le Dieu incarné, Dieu incarné dans la chair, Emmanuel. Et Judas était le fils de la perdition, alors que Jésus est le fils de Dieu. D'une part, Dieu incarné, d'autre part, le diable incarné. Certains ne peuvent voir que trois croix en cette heure-là, mais il y en avait quatre. Il y en avait trois que nous pouvons voir à Golgotha. Jésus était au milieu. Un voleur à gauche et un voleur à sa droite. Et regardez. Un voleur a dit à l'autre, ou a dit à Jésus, si, et vous savez qu'il est la parole, si tu es la parole. Pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour cela? C'est pareil aujourd'hui. N'avez-vous pas entendu ces vieux démons venant dire, si tu crois à la guérison divine, pourquoi n'ouvres-tu pas les yeux? Frappe-moi aveugle, frappe-moi d'aveuglement. C'est toujours le même démon. Descends de la croix et nous croirons en toi. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. C'est le même démon. Éloignez-vous simplement. C'est ainsi que Jésus a fait. Il n'a pas joué de comédie. Ils mirent un chiffon sur sa tête, sur ses yeux précieux comme cela, puis ils ont pris un bâton et ils l'ont frappé à la tête en disant, « Dis-nous, si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Ils se passaient le bâton de l'un à l'autre. « Dis-nous qui t'a frappé, et nous croirons que tu es un prophète. » Mais il n'ouvrit pas la bouche, il se tint simplement là. Il ne fait pas la comédie, il ne fit que ce que le Père lui montrait. Laissez-les suivre leur voie, leur temps viendra, ne vous en faites pas. Maintenant, ils ont touché son vêtement, mais ils ne ressentirent aucune force, mais une pauvre femme qui avait un besoin à toucher simplement son vêtement. Et lui, s'étant retourné, avait dit, « Qui m'a touché? Quelle touche différente, voyez-vous? » Tout dépend comment vous le touchez, voyez. Ainsi comme Satan s'est incarné de l'Antichrist, le faux prophète maintenant, et au jour des Juifs, il est Antichrist dans l'Église primitive. Dans l'âge des ténèbres, il est devenu un faux prophète dans le monde. Vous voyez là cette coupe d'iniquité? Et cela concerne les âges de l'Église maintenant. Mais dans l'âge qui vient après que l'Église soit allée à la maison, il devient une bête, il devient le diable incarné, le dragon rouge lui-même. Oh là là, ne pouvez-vous voir ce que je veux dire? Il s'est alors incarné dans son peuple. Il tient son peuple lié par son pouvoir. Par ses prophéties, le faux prophète les a introduits là-dedans, les a livrés à de profondes illusions qui les fait croire aux mensonges et être damnés par cela en les faisant renier la parole par une forme de piété. Dieu établit sa position dans une triple action, la justification, la sanctification, puis en s'incarnant lui-même dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit. La même chose. Il n'est qu'un imitateur qui vient après Christ. Oh, Satan s'incarne lui-même. Maintenant, écoutez. Satan, quand Jésus s'incarne dans son peuple, la vie même qui était en Jésus est dans cette personne. Qu'arriverait-il si vous preniez la vie d'un plant de vigne et la mettiez dans un plant de courge? Celui-ci ne produirait plus de courge, il produirait des raisins. Qu'arriverait-il si vous preniez la vie d'un pêcher et la mettiez dans un poirier? Ce dernier produirait-il des poires? Non, il produirait des pêches. La vie manifeste ce qu'elle est. Vous voyez? Quand vous entendez des gens dire qu'ils ont le Saint-Esprit et que malgré cela, ils renient la parole, quelque chose ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui a écrit cette parole. Et Jésus a dit, écoutez, si un homme a mon esprit en lui, il fera mes œuvres. Si vous voulez le lire, regardez dans 5 Jean 14:12. Très bien. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, il en fera même davantage, parce que je m'en vais vers le Père. Alors il le sanctifie, il le purifie de telle manière qu'il puisse se tenir devant Dieu. Cette goutte d'encre tombe là, il lui fait traverser l'abîme, voyez-vous. Maintenant regardez. Satan, quand il s'incarne dans ses sujets, ils font les mêmes œuvres que lui. Ne le voyez-vous pas? Qu'a-t-il fait? Il est venu vers une femme innocente et l'a séduite. C'est exactement ce que vont faire ces démons. Ils entrent dans un lieu où un pasteur a commencé quelque chose et lui disent, « Oh, si vous voulez simplement vous joindre à nous. » C'est la même œuvre diabolique. Maintenant, c'est la vérité. Et quand Satan s'est incarné dans son Église, s'il y a des démons, ce sont eux qui commettent tous ces crimes, ces meurtres, etc. Parce que Satan est un meurtrier dès le commencement, un menteur et un voleur. Très bien. Alors que fait Satan lorsqu'il s'incarne parmi le peuple? Il doit être rusé. Il est rusé. Sondez la Bible et montrez-moi où Dieu n'ait jamais utilisé des intellectuels. Cherchez et voyez si ce ne sont pas toujours des intellectuels qui sont possédés par le diable. Cette parole est dure, mais c'est la vérité. Je vous défie de regarder la lignée d'Abel et de Caïn et leurs 14 générations. Suivez-les et voyez de quel côté ont trouvé les sages et les intelligents et de quel côté ont trouvé les humbles. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi de pareilles personnes? Il a pris pour les mettre à sa tête de son église des pécheurs et des hommes qui ne savaient même pas écrire leur nom, pour les placer à la tête de son église. C'est vrai. La sagesse n'est rien. Elle est contre Christ. La sagesse du monde est toujours contre Christ. Toujours. Jésus ne nous a jamais dit d'aller construire des séminaires. Il ne l'a jamais fait d'avoir des écoles bibliques. Il a dit, prêchez la parole, prêchez l'évangile. Alors s'il a dit, ces signes suivront ceux qui croient, voyez, vous devrez avoir, en d'autres mots, il a dit, allez et démontrez la puissance de Dieu à toutes les nations. Maintenant regardez, le devoir de Satan est de pervertir la parole de Dieu et d'en faire un raisonnement de la sagesse. Oh là là. Alors il marque ses sujets en leur faisant rejeter la parole originelle. Maintenant, voulez-vous simplement m'accorder votre attention? Je ne veux pas que vous le manquiez. Laissez-moi vous montrer ici en type, les choses par les types. Vous ne devriez pas partir d'ici dans la confusion. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme était vendu comme esclave, il y avait tous les 50 ans un jubilé, 49 ans, puis l'année du jubilé. Lorsqu'un esclave apprenait cela et voulait être libre, rien ne pouvait l'empêcher de partir libre. Il n'avait qu'à jeter son outil à terre en disant « Bye bye, je m'en vais » et retourner chez lui. La trompette avait sonné, c'était son droit. Mais s'il ne voulait pas partir, s'il était satisfait avec son maître, alors il était conduit au temple. Et là, on prenait un poinçon, vous savez ce que c'est, et on lui faisait un trou dans l'oreille, un trou dans son oreille. Et avec cette marque, il ne pouvait plus jamais retourner. Est-ce juste? Il devait servir son maître pour toujours. Peu importe le nombre de jubilés qui étaient sonnés ou quoi qu'il advint, absolument, il avait vendu son droit d'aînesse pour être libre. Et quand un homme rejette la vérité de l'Évangile, Satan le marque. Où? Dans son oreille. Il le rend sourd de manière qu'il ne puisse plus entendre la vérité. Pour lui, c'est fini. Il demeure dans le groupe auquel il appartient s'il ne veut pas entendre la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité rend libre. Dieu marque les siens lorsqu'ils viennent à lui. Dieu marque les siens en confirmant sa parole promise par eux, exactement. Saint Jean 14, 12. Et autre chose que vous pouvez aussi marquer, c'est Marc 16. Jésus a dit, « Voici les signes qui suivront ceux qui croient. » Arrêtons-nous là un instant. Est-ce qu'il plaisantait? Non. Parlait-il simplement des apôtres, comme certains voudraient nous le faire croire? Regardez, comme arrière-plan. Allons, où, dans le monde entier, prêcher cet évangile? À qui? À toute la création. Et pas un tiers à peine l'a reçu. Et ces signes suivront le monde entier, là où cet évangile est prêché. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Pas simplement une petite poignée. Comme un gars m'avait dit une fois, Dieu m'a donné le don de guérison qu'ont 12 apôtres, beaucoup de frères qui sont ici, étaient présents lorsque cet homme s'est levé pour dire cela. Et au bout de quelques minutes, il en a eu assez. Et remarquez, allez, partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature. Ne prenez pas la marque d'incrédulité de Satan. Il la mettra sur vous ce soir s'il pouvait le faire. Il vous poinçonnera l'oreille contre la paroi et vous sortira en disant, « Oh, je ne comprends rien à tout cela. » Rentrez à la maison et étudiez-le. Et puis soyez sincères et priez. Parce que tout cela, c'est trop parfaitement scripturaire dans cette heure même, cette heure sacrée dans laquelle nous sommes. Cela a été prouvé depuis des années, et nous avons passé par toutes ces étapes, et maintenant c'est l'heure. Et maintenant, ne le laissez pas poinçonner votre oreille de sa marque d'incrédulité, voyez, parce que c'est un incrédule dès le commencement. Ne le laissez pas prendre les Écritures avec sa sagesse et la tordre et la pervertir avec sa propre sagesse dans des puissances de raisonnement. Soyez simplement humble et dites, Dieu l'a dit, voilà tout. Il faudrait mieux de nous arrêter ici et commencer. Maintenant, approchons-nous du second sceau. Lorsque l'agneau immolé et ressuscité l'ouvrit, et que le deuxième animal, semblable à un veau, a dit, viens et vois, ce qu'est le mystère scellé. Maintenant, nous allons comprendre. Vous rappelez que l'agneau doit ouvrir chaque sceau. Et la deuxième bête, le deuxième animal, remarquez, c'est la même chose. Au second verset, c'était un lion. Au verset suivant, c'était comme un bœuf ou un veau ou un bœuf. Et il a dit, viens et vois. Maintenant, et lorsque l'agneau a ouvert les sceaux, et alors, viens et vois. Et lorsqu'il est entré, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà ce qu'il a découvert. Viens et vois. Il y a un mystère qui est scellé là. Et maintenant, il se trouve là depuis 2000 ans. Voyons ce que c'est. Maintenant, nous découvrons ici qu'il a vu quoi? Un cheval roux qui s'avance. Maintenant, à ma compréhension, selon cette grande épée qu'il tenait dans la main, nous allons voir trois choses dans les 15 ou 20 minutes qui viennent maintenant. Lisons et voyons ce qu'il dit. Au quatrième verset, et il sortit un autre cheval qui était roux, le premier était blanc. Et il lui fut donné une puissance, celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, et qu'ils se tuent les uns les autres, et il lui fut donné une grande épée. Maintenant, il y a des symboles ici, et il faut que nous les examinions très près. Mais selon ma compréhension, au meilleur de ma compréhension, Jésus a prédit la même chose dans Matthieu 24. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, de guerre et de bruit de guerre, mais il a dit, ces choses ne sont pas encore. Le temps n'est pas encore venu. Voyez, ils ont posé trois questions à Jésus et il leur a donné trois réponses. C'est là que beaucoup de nos frères se sont embrouillés, essayant de placer, notamment les frères adventistes, au sujet du septième jour, etc. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Les portes seront fermées le jour du sabbat. Et autre chose, ceci n'a rien à voir même avec la question, pas du tout. Il répondait à ce qu'il demandait, mais il ne l'appliquait pas au dernier jour. Il a dit, vous entendrez, nous allons maintenant travailler sur ce point particulier et nous en ferons quelques-uns de plus dans quelques jours. Il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre et ainsi de suite, mais tout ceci n'est pas, vous voyez, on va vous livrer et faire encore d'autres choses semblables, ce n'est pas encore pour maintenant. Mais le moment vint pour lui de leur parler de ce qu'il lui avait demandé au sujet de la fin du monde. Quand arrivera-t-il qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Quel sera le signe? Quand viendra la fin du monde? Voyez, ils lui ont posé trois choses. Et lorsqu'il en est arrivé à la fin du monde, il a dit, quand vous verrez le figuier pousser des bourgeons, alors vous saurez que le temps est à la porte. Et en vérité, je vous dis que cette génération ne passera pas avant que tout soit accompli. Comment l'infidèle, sans en connaître l'interprétation, aime s'appuyer là-dessus. En disant cette génération, il ne s'adressait pas à la génération à laquelle il parlait, mais à celle qui verrait le figuier pousser des bourgeons. Maintenant, je vais vous poser une question. Regardez bien ceci en face. Israël est maintenant, pour la première fois depuis 2500 ans, une nation. Le drapeau le plus ancien du monde flotte ce soir sur Jérusalem. Israël est dans sa patrie. Il y avait une fois un frère qui voulait devenir missionnaire. Il voulait être missionnaire parmi les Juifs. Et je lui ai dit, vous pourriez l'être une fois. Les gens pensent que toute la nation. Non, monsieur, Israël est converti en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Une nation naîtra en un jour. C'est Israël. Tout Israël sera sauvé. Souvenez-vous, Paul l'a dit. Tout Israël sera sauvé. Maintenant, remarquez. tout Israël. C'est exactement vrai. Remarquez ceci. Mais il a dit, quand vous verrez le figuier et tous les autres arbres pousser des bourgeons, regardez, il n'y a jamais eu de temps depuis 2500 ans où Israël soit retourné dans sa patrie. Nous avons eu le petit film Minuit moins 3. La voilà, c'est une nation. L'étoile de David à 6 branches flotte et il y a tout le reste. Y a-t-il jamais eu un temps où la dénomination ait connu des réveils semblables à ceux de ces dernières années? Maintenant, étudions simplement. Nous sommes à la maison. Quand les dénominations ont-elles fleuri autant par le ministère de Billy Graham, les méthodistes, les baptistes, etc.? Quand s'est-il jamais trouvé un homme cherché dans l'histoire qui se soit jamais avancé vers l'église formaliste dont le nom s'est terminé par H-A-M? A-B-R-A-H-A-M. Maintenant, regardez. Le nom d'Abraham a 7 lettres. A-B-R-A-H-A-M. Mais celui de notre frère Billy Graham, G-R-A-H-A-M, 6, pas 7. 6, le chiffre du monde. Et c'est là qu'il exerce son ministère. Dans l'église naturelle. L'église naturelle est Lot à Sodome. Et lorsque ces hommes y descendirent et prêchèrent et les aveuglèrent par l'évangile, l'un d'eux resta avec Abraham. Et Abraham l'a appelé Elohim, Seigneur. Lorsqu'Abraham vit venir les trois, il a dit « Mon Seigneur ». Par contre, lorsque Lot en vit venir deux, il a dit « Mes Seigneurs ». Voyez la différence. Vous voyez cette désignation trinitaire, comme Jésus a dit, comme il en est arrivé au jour de Lot. Vous voyez cela? Remarquez. Comptez. Maintenant, il y en a un qui est venu vers l'église spirituelle, l'épouse, Abraham, et qui n'était pas à Sodome pour commencer. Et observez ce qu'il a fait. Il n'a pas fait comme les autres des prédications. Il a enseigné. Et il leur a donné un signe. Il a accompli le signe messianique. Il avait le dos tourné à la tente. Et il a dit, Abraham. Maintenant, souvenez-vous que quelques jours avant, son nom était Abraham. Mais il a dit, Abraham. Où est ta femme? S-A-R-A-H. Et quelques jours avant, c'était S-A-R-A-I. Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Et il a dit, Abraham, moi, je, voilà le pronom personnel, je te visiterai selon la promesse que je t'ai faite. Voyez-vous, un homme avec de la poussière sur les vêtements qui a mangé du veau et bu du lait caillé. Dieu, Elohim, manifesté dans la chair. Il a promis dans les derniers jours de se manifester à nouveau dans la chair. Remarquez. Abraham, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je te visiterai. Évidemment, cette femme âgée de 90 ans, elle a ri un petit peu sous cap. Là, dans la tente, derrière les rideaux de la tente. Elle a dit, moi, une vieille femme. Voyez-vous, le rapport de mari et femme avait cessé depuis des années. Il avait 100 ans, elle avait 90. Il a dit, ça n'arrivera plus jamais. Et le Seigneur a dit, pourquoi a-t-elle ri? Avec le dos tourné à la tente. Pourquoi a-t-elle ri en disant, comment cela est-il possible? Voyez? Il lui a montré un signe. Maintenant, il a promis que ceci se répéterait au temps de la fin. À nouveau. Les deux hommes sont descendus là-bas, ont prêché la parole, disant à Lot de sortir de là, car l'endroit allait brûler. C'est ce qui est arrivé. Lot, l'église naturelle, est sortie en chancelant du péché, de la boue, tout en se débattant dans ses programmes d'organisation. Mais l'époux, l'épouse, cet homme-là n'est jamais allé avec eux. Il est allé seulement appeler ceux qui étaient le type de l'épouse. Maintenant, nous sommes dans les derniers jours. Voyez? Maintenant, remarquez. Vous dites, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus lui-même a dit, comment me condamnez-vous? N'est-il pas écrit dans votre Bible, votre loi, que les prophètes à qui est venue la parole de Dieu, Jésus a dit que la parole était venue aux prophètes, parce qu'il était lui-même en accord avec les Écritures. Il a dit, la parole de Dieu dit que la parole est venue aux prophètes, et si vous les appelez Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est venue à eux. Alors comment allez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le Fils de Dieu? Oh là là, vous y voilà. Maintenant, où en sommes-nous? Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, écoutez attentivement. Maintenant, nous avons découvert qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Et maintenant, nous voyons que le figuier produit ses bourgeons et les autres arbres ont poussé des bourgeons. Méthodistes, baptistes, presbytériens, tous ont poussé leurs bourgeons. Un grand réveil est en cours. Je crois que Dieu rassemble l'épouse, les élus pour cette dernière heure. Oh là là. Maintenant, remarquez. Considérons maintenant ce que Jean a vu, les choses qu'il a vues. Un cheval roux et son cavalier qui s'avance. Le pouvoir lui est donné d'abattre avec une grande épée. Maintenant, voici ma révélation. C'est Satan à nouveau. C'est le diable à nouveau sous une autre forme. Nous savons que les sceaux, comme j'ai dit l'autre soir, les trompettes se rapportent à des guerres civiles parmi le peuple ou les nations. Mais vous voyez ici que cet homme a une épée. Il s'agit donc d'une guerre politique d'église. Vous pouvez ne pas le croire, mais attendez seulement une minute. Remarquez. Le changement de couleur de ses chevaux que monte toujours le même cavalier. Un changement de couleur des chevaux. Maintenant, un cheval est un animal. L'animal dans la Bible est un symbole qui représente une puissance. Le même système chevauchant une puissance d'une autre couleur. D'un blanc innocent à un rouge sanglant. Observez maintenant. Au commencement, quand il a commencé, c'était simplement une petite doctrine appelée le nicolaïsme. Bien sûr, elle n'allait tuer personne. C'est dans Apocalypse 2:6, si vous voulez noter. Elle ne tuerait personne. Ce n'était qu'une doctrine, un esprit parmi les gens. Ça n'aurait causé la mort de personne. Oh, il était si innocent sur ce cheval blanc. Vous savez, nous pourrions avoir une grande église à l'échelle mondiale. Nous pourrions l'appeler l'église universelle. C'est ce qu'ils disent toujours. Très bien, oui. Oh, c'est parfaitement innocent. Oh, c'est tellement innocent. C'est juste un groupe d'hommes. Nous nous réunirons tous dans une communion. Voyez, c'est très innocent. C'est blanc comme le cheval blanc. Ainsi, les dignitaires, ceux qui sont mieux vêtus, mieux instruits, vous savez, c'est les oiseaux d'un même plumage. Nous efforçons de rassembler les choses. Ce pauvre groupe, s'ils veulent marcher ainsi en trébuchant, tant pis pour eux. Mais nous voulons avoir une meilleure classe de gens qui viennent dans notre église. Si seulement nous arrivons à nous sortir de ce groupe, nous deviendrons une franc-maçonnerie ou quelque chose de semblable. Nous ferons les choses comme il faut. Non pas exactement comme ces loges, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quelque chose qui sera bizarre pour les croyants véritables. Maintenant, autrement dit, nous voulons avoir un petit syndicat que nous puissions appeler le nôtre. Ce n'est qu'une doctrine bien innocente. Frères et sœurs, nous n'avons certainement rien contre vous, certainement pas. Nous sentons que si nous avons des affaires ensemble, nous nous en trouverions beaucoup mieux si nous nous groupions, voyez-vous. Et cela a continué jusqu'à ce que finalement ces choses arrivent, certainement. Mais lorsque cet esprit séducteur terrible, oh là là, s'incarne, cet esprit incarné, cet esprit de doctrine, lorsqu'il s'incarne pour prendre la place de Christ dans un homme, il doit être adoré alors, il devient un objet d'adoration comme Christ. En d'autres mots, au Vatican, il est écrit Vicarius Filii Dei. Et c'est écrit en chiffres romains. Maintenant, dans cette numérologie, ça veut dire que, au lieu de fils de Dieu, soit, donc il est un vicaire. Vous savez, c'est un vicaire, celui qui prend la place de quelqu'un d'autre. Il est le vicaire à la place du fils de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a le don d'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'un homme, et son nombre est 666. Maintenant, si vous prenez Vicarius Filii Dei, et que vous tiriez une ligne en dessous, en chiffres romains, le V égale 5, le I égale 1, faites l'addition et voyez si vous n'obtenez pas 666. La Bible dit qu'il s'assiérait dans le temple de Dieu, qu'il serait adoré comme Dieu. Lorsque cette petite doctrine devient incarnée, elle devint un vicaire prenant la place du Fils de Dieu. Oh là là, cet esprit terriblement séducteur, si vous voulez lire dans 2 Thessaloniciens 2, 3, vous verrez ce qu'il en est. Et bien sûr, vous vous souvenez que Satan est la tête de tout le pouvoir politique de chaque nation. Combien parmi vous savent cela? Vous voulez l'écrire? Matthieu 4, 8. Satan transporta Jésus sur une haute montagne et en un clin d'œil, il lui a montré tous les royaumes du monde qui aient jamais existé ou qui existeraient jamais. En un instant. Quel personnage important. Il lui dit, je te les donnerai si tu m'adores. Et Jésus savait qu'il en deviendrait l'héritier. C'est ainsi qu'ils disent, vous, pauvre bande de fanatiques, nous possédons le monde. Les débonnaires hériteront la terre. C'est ce que Jésus a dit. Voyez? Remarquez. Jésus savait qu'il serait héritier des royaumes de la terre. C'est pourquoi il a dit, retire-toi, Satan. Il est écrit de nouveau dans les Écritures, voyez-vous. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Maintenant, en tant que chef des démons, Satan, qu'il s'incarne dans cet homme super religieux, comme le prédit la Bible, alors, il unit son Église à l'État, il les unit tous les deux ensemble par sa propre puissance. Vous voyez? Lorsque l'esprit antichrist se mit en route, c'était un esprit. Ensuite, il devient quoi? Observez ce saut. Quand l'esprit s'avança, il était antichrist, s'opposant à l'enseignement de Christ. Très bien. La chose suivante, ce que Christ avait commandé à son Église de faire, était de s'opposer au péché. Mais ensuite, l'esprit de Satan vint, disant, « Oh, ce n'est pas ce que ça veut dire, ce n'est pas ce que cela veut dire. C'était pour un autre groupe, bon, pour les siècles passés, ce n'est pas pour nous. » Vous voyez, ça, c'est anti, contre. Maintenant, le cavalier est sorti. Il n'avait pas de couronne, mais il lui en fut donné une. Il montait ce cheval blanc. Il avait un arc, mais pas de flèche. Ainsi donc, il s'est avancé, mais ce n'est qu'après un temps qu'il lui fut donné une couronne, car vous ne pouvez pas poser de couronne sur la tête d'un esprit. Mais lorsque cet esprit s'incarna au cours de la deuxième dispensation de son mystère, sa deuxième œuvre, il devint un faux prophète couronné pour faire l'œuvre de l'esprit antichrist. Maintenant, nous voyons, il devient cela. Alors, Satan contrôle les pouvoirs politiques du monde. Maintenant, il va occuper une position où il établit une église d'une puissance universelle, prenant le pouvoir religieux. Alors, mes frères, ne comprenez-vous pas que lorsque cette nation apparaît au 13e chapitre de l'Apocalypse, ce petit animal se lève, semblable à un agneau, ayant deux cornes, pouvoir civil et religieux. Et il a fait la même chose que la bête avant lui. C'est étrange. Le nombre de l'Amérique est 13. C'est une femme. Il est étrange qu'elle apparaisse précisément au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec 13 rayons sur le drapeau, 13 étoiles, tout par 13, 13, 13, tout le long de notre histoire. Et tout se rapporte à la femme. la femme d'un bout à l'autre. Il finira par arriver, comme je l'ai prédit, qu'une femme contrôlerait l'Amérique. Souvenez-vous que je l'ai dit il y a 30 ans, et que des 7 choses que j'ai dites, 5 se sont déjà réalisées. Ils ont déjà là l'homme destiné à introduire cette femme. C'est vous qui avez élu cet homme par votre politique. Très bien. Il y a tant de choses à dire. Nous avons de la peine à atteindre notre objectif. Remarquez maintenant, je vais vous retenir juste encore un petit moment si je veux arriver à terminer ce soir. Maintenant, tout le monde réalise que Satan contrôle toutes les puissances politiques du monde. Tous les royaumes lui appartiennent. Voilà pourquoi Matthieu 4, verset 8, tous les royaumes lui appartiennent. Voilà pourquoi ils se battent, se font la guerre, ils se tuent. N'est-il pas étrange qu'on leur ait donné cette épée pour s'entretuer? Oh là là, remarquez. Maintenant, quand il a fait cela, il n'avait pas encore le pouvoir ecclésiastique. Mais il commença avec le démon du faux enseignement. Puis cet enseignement devient doctrine. Cette doctrine s'incarne dans un faux prophète. Et alors, il est allé juste au bon endroit. Il n'est pas allé en Israël maintenant, mais il est allé à Rome, à Nicée, Rome. Le concile eut lieu et ils élirent un évêque principal. Et alors, en faisant cela, ils ont uni l'Église à l'État. Alors, il posa son arc, descendit de son cheval blanc, il monta sur son cheval roux, il put tuer quiconque n'était pas d'accord avec lui. Voilà votre sceau. C'est le même personnage. Regardez-le entrer ainsi dans l'éternité. Il unit ces deux pouvoirs. C'est exactement la même chose qu'on essaie de faire maintenant. La même chose. Aujourd'hui, il est arrivé quelque chose d'étrange que vous ne comprenez peut-être pas. Mais aujourd'hui, d'un groupe baptiste de Louisville, vous l'avez entendu à la radio, quelqu'un s'est levé. Combien l'ont entendu? Il dit voilà. Il a demandé à l'Église, non pas d'aller se joindre à l'Église catholique, mais d'avoir communion avec elle. Et tout ça, ça se passe à Louisville. Et Dieu ici est en train de dévoiler les sceaux à son peuple afin de nous dire, ne faites pas cela! Voyez-vous ces deux esprits agir en même temps? Souvenez-vous que le corbeau et la colombe étaient sur le même perchoir. Oui, souvenez-vous-en. Ainsi, nous voyons qu'il réunit ses pouvoirs. Qu'allez-vous faire maintenant? Qu'il devient à la fois État et Église. Pouvoir ecclésiastique. Alors que va-t-il faire? Il forme sa propre religion. Et alors, il pourra faire tout ce qu'il veut. Alors, il aura le droit de mettre à mort quiconque n'est pas d'accord avec lui. C'est exactement ce qu'il a fait également. Et il a fait cela exactement. Et il a fait avec les véritables saints du Dieu vivant qui ont gardé la parole et n'ont pas voulu être d'accord avec les dogmes. Il les a mis à mort. Maintenant, frère Livale, et vous qui, les docteurs de l'âge de Nicée et de l'Église primitive, je ne sais pas si vous avez lu cela. Si vous voulez le lire, prenez le livre de Smuckers, La Glorieuse Réformation, et vous y verrez que lorsque Saint Augustin d'Hippone devint prêtre de l'Église romaine, il a eu l'opportunité, quand le Saint-Esprit essaya de venir sur lui, mais il l'a rejeté. Combien savent cela? Les docteurs. Donc, il a rejeté le Saint-Esprit. C'est exactement le type même de l'Église protestante aujourd'hui qui a rejeté le Saint-Esprit. Il est allé là. Saint Augustin retourna à Hippone et ce fut lui qui signa ce document déclarant qu'il aurait reçu la révélation de Dieu selon laquelle il serait bon et agréable à Dieu de mettre à mort toute personne qui ne croirait pas conformément à l'Église catholique romaine. Maintenant, écoutez. Je cite ici dans le Martyrologe. Depuis le temps de Saint Augustin d'Hippone à l'an 1586, l'Église catholique romaine a mis à mort 68 millions de protestants. Son épée n'était-elle pas rouge? Ne chevauchait-il pas un cheval roux? Qu'était-ce? Le même pouvoir, le même cavalier. Voilà le sceau. Ils en admettent 68 millions dans le martyrologe, sans compter tous ceux qui furent tués en dehors de cela. Oh, quelle pitié! Pendant les âges sombres, ils furent des millions à être jetés en pâture aux lions ou massacrés de toutes sortes de manières possibles parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant les dogmes catholiques. Vous savez cela. Combien de temps nous reste-t-il? Très bien. Laissez-moi vous lire quelque chose. Prenez cette chose une minute. Je viens d'y penser. Nous allons le lire. Prenons Apocalypse 17 de l'Apocalypse. Nous avons encore 15 minutes. Très bien. Maintenant, écoutez très attentivement, alors que nous lisons, vous qui avez votre Bible, je vais vous donner un peu de temps pour le trouver. J'ai trouvé cela dans Glorieuse Réformation de Smuckers, celui qui l'a tiré directement du martyrologue de Rome au Vatican. Et c'était au temps de la persécution des disciples de Saint-Patrick. Ensuite, ils ont appelé Saint-Patrick leur saint. Saint-Patrick était aussi catholique que moi. Vous savez à quel point je le suis. Il détestait la doctrine de l'Église. Il refusa d'aller voir le pape, certainement. Saint Patrick même. Êtes-vous jamais allé en Irlande du Nord où il avait ses écoles? Vous savez que son nom n'était pas Patrick? Combien ils le savent? Son nom, c'était Sukatus. Il avait perdu sa petite sœur, si vous vous souvenez. Très bien, maintenant remarquez. Chapitre 17 de l'Apocalypse. Que chacun ouvre son cœur et laisse le Saint-Esprit l'enseigner. Et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint. Maintenant, vous voyez les sept coupes, vous connaissez ces sept. Nous sommes en train de parcourir. Elles sont toutes arrivées en même temps, à la suite des plaies, pareillement à la suite des âges de l'Église, parce que tout est scellé dans ce même livre. Chaque chose arrive à son tour, et une chose s'imbrique dans l'autre, et ainsi de suite. Deux esprits sont à l'œuvre. Dieu et le diable. Et il me parla disant, « Viens ici et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs dos, sur de nombreuses eaux. » Remarquez ici, les eaux. La prostituée, qu'est-ce que c'est? C'est une femme, ça ne peut pas être un homme. Et de quoi la femme est-elle le symbole dans la Bible? L'Église. Pourquoi? L'épouse de Christ, ainsi que toutes les églises, vous voyez, ce sont des femmes. Que signifient les eaux? Regardez bien, verset 15. Il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. L'Église gouverne le monde entier. Elle est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, impudicité spirituelle, prenant leur doctrine nicolaïte. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Oh, vous parlez d'une bande d'ivrognes. Et il m'emporta en esprit dans le désert, et je vis une femme. Et saviez-vous que même les écrits catholiques admettent que ceci est leur Église? Combien savent cela? C'est écrit noir sur blanc dans leur propre publication. J'ai une brochure intitulée « Les réalités de notre foi ». Elle appartient à un prêtre. Et il m'emporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et en 7 têtes et 10 cornes. Faites bien attention à cela maintenant, ce symbole. 7 bêtes à 7 têtes. Et les têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Rome est située sur 7 collines. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. 7 têtes et 10 cornes, ce sont les 10 royaumes et ainsi de suite. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Cet esprit antichrist, cette fornication, cet adultère commis contre Dieu. Elle était censée être une épouse, mais commettait adultère, tout comme Ève l'a fait, exactement comme l'Église le fait. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, Babylone, la Grande. Tout le monde sait que Babylone est Rome. La mère des prostituées et des abominations de la terre. Et écoutez le verset 6. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus saisi d'une grande admiration, quelque chose de merveilleuse avec ses croix et tout le reste sur elle. Comment au monde pouvait-elle être coupable d'avoir bu le sang des saints? Cela était intriguant. Et l'ange allait lui expliquer. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Maintenant, ce n'est pas contenu dans l'un des sept sceaux, c'est quelque chose d'autre, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme. Le pape n'a pas de fondement et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du livre, voyez, ceux qui ne sont pas la semence élue, quand votre nom a-t-il été inscrit dans le livre de la vie, lorsque cette réunion de réveil a commencé? Non, dès la fondation du monde. Lorsqu'ils ont contemplé la bête, qui était, qui n'est pas, et cependant, elle est là. Voyez la bête. L'une mourra, l'autre prendra sa place. Elle n'était pas. Et elle se dirige de cette manière tout droit vers la perdition. Très bien. Et ici est l'entendement qui a de la sagesse. Combien savent qu'il y a 9 dons spirituels et qu'il y en a 2 la sagesse? Très bien. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Il faudrait que vous soyez complètement aveugle, sourd et muet pour ne pas comprendre cela. 7 rois, 5 sont tombés, et l'un est Néron, et l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Souvenez-vous ce qu'il fit, il mit le feu à la ville, il rendit les chrétiens responsables, il fit attacher sa mère à un cheval qui la traîna dans les rues, et pendant que Rome brûlait, il jouait de la harpe. Et la bête qui était, et qui n'est pas, elle aussi un 8e. La Rome païenne se transforma en Rome papale lorsque l'esprit antichrist s'incarna et fut couronné. Il fut couronné roi de Rome, régnant à la fois sur l'État et sur l'Église. Oh frère, voyez-vous, c'en est rempli. Elle est d'entre les 7 et elle s'en va à la perdition. Combien de temps cela durera-t-il? Ils n'ont jamais changé de système. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi une heure avec la bête. Ce sont des dictateurs, vous voyez, c'est certain. Ceux-ci ont une seule et même pensée. Il y en a qui parlent tout le temps de communisme. Et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, ou appelés, choisis et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues et la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte, quand l'alliance sera brisée, ce dont nous avons parlé hier soir, et mangeront sa chair et brûleront au feu, ce dont nous avons parlé. Ils la rendront désolée et la brûleront de feu. Ne savez-vous pas que la Bible dit que les navigateurs et les autres diront, hélas, hélas, cette grande ville, sa ruine viendra en une heure, vous voyez? Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, sa volonté, et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre. La Russie ne règne pas sur tout. Nous, les Américains, nous ne régnons pas sur tout. Il n'y a qu'un seul roi qui règne sur toutes les nations, comme le faisait Nebuchadnezzar, qui commandait à chacun de ses doigts de pied. C'est Rome. Rome ne règne pas en tant que nation, mais en tant qu'Église. Chaque nation sous le ciel est tournée vers Rome. Rien d'étonnant à ce qu'il ait dit. Et qui peut lui faire la guerre? Et s'il dit paix, cela règle la question. Si l'Église dit ne vous battez pas, ils ne se battent pas, voilà tout. Qui est capable de faire ce qu'elle fait? Personne. Ainsi, ils étaient émerveillés par les miracles qu'elle pouvait faire. Elle peut stopper la guerre. Elle n'a simplement qu'à dire stop et c'est tout. Mais croyez-vous qu'elle le fera? Certainement pas. Remarquez. C'est ainsi qu'ils pouvaient s'entretuer. Au début, son arc n'avait pas de flèche. Mais sa grande épée, elle, était meurtrière. Il commit ses meurtres plus tard et changea de cheval blanc à cheval roux. C'est exactement le même démon, le même diable. avec son épée. Qu'a dit Jésus? Jésus a dit, ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne rendez pas les coups. C'est ce que Jésus a dit à Pierre la nuit où il a pris son épée. Soyez comme lui, allez de l'avant. Maintenant, souvenez-vous qu'il a une épée. Il s'avance, une épée à la main, chevauchant un cheval roux, marchant au travers du sang de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Comprenez-vous ça maintenant? Combien comprennent ce qu'est ce saut maintenant? Très bien. Maintenant, qu'a dit Jésus? Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée, n'est-ce pas vrai? Très bien. Très bien. Ce cavalier et tous les sujets de son royaume qui ont tué au travers des âges, qui ont répandu le sang des martyrs et des saints, seront mis à mort par l'épée de Jésus-Christ lorsqu'il viendra. Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ils ont pris l'épée du dogme et de l'Antichrist et ont retranché par millions les vrais adorateurs tout le long des âges. Et lorsque Christ viendra avec l'épée, qui est sa parole, qui sort de sa bouche, il mettra à mort tout ce qui se dresse contre lui. Croyez-vous cela? Arrêtons-nous ici un instant. Allons voir dans Apocalypse, où la parole le dit, Apocalypse 19, 11. Et je vis le ciel ouvert. Amen. Et voici un cheval blanc. Et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Et sur sa tête, il y a plusieurs couronnes, oh frère. Il a été couronné par ses saints. Et il porte un nom écrit que personne ne connaît que lui seul. Rappelez-vous que nous ne le connaissons pas encore. Et il est vêtu, voyons, d'un vêtement teint de sang, et son nom est appelé, non pas « est », mais est appelé la parole de Dieu, car lui et la parole sont une seule et même chose. Maintenant, remarquez, il ne s'agit pas de ses noms. Mais de son nom. Il est appelé la parole de Dieu. Jean ne connaissait qu'un nom, pas d'autre nom. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blancs et purs. C'est la justice des saints. Maintenant, regardez. Qu'a dit Jésus? Celui qui prend l'épée? Très bien. C'est maintenant le cavalier au cheval roux qui va venir. Celui qui prend l'épée, vous pourriez avoir tué 68 millions de saints au travers des âges, ou peut-être encore plus. Mais Jésus a dit, celui qui prend l'épée périra par elle. Maintenant, regardez. Et de sa bouche sortait une épée aiguë. Hébreux, chapitre 4, dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la moelle et les os. Qu'est-ce que fait la parole? Elle discerne les pensées du cœur. De sa bouche sortait une épée aiguë, tranchante, pour frapper les nations. Et il les gouvernera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Comme les imposteurs qui s'opposent à la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces choses. Satan a placé et uni ensemble la puissance politique qu'il détenait et la puissance spirituelle qu'il détenait et en a fait une église qui s'impose dans chaque nation. Et il a placé des millions après avoir sauté de son cheval blanc sur son cheval roux. Il a pris son épée et s'est avancé. Mais Dieu a dit que cette chose même qu'il avait pervertie ou essayé de pervertir par le faux enseignement, cette parole même se lèverait avec puissance, sortant de la bouche de Jésus-Christ, et qu'elle les mettrait à mort. Lui et tout ce qui lui appartient. Amen. C'est cela le deuxième sceau. L'aimez-vous? Oh là là. C'est ainsi dit le Seigneur. If all these other rebels... Si toutes ces autres révélations, visions et tout le reste correspondent exactement, combien savent cela? Levez la main. Des centaines, tout le monde a la main levée. Prenez bien garde. Ainsi, ceci sera. Souvenez-vous, c'est ainsi. Oh, les amis, venez à la fontaine qui est remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongent jusqu'au fond de ses flots et perdent toute tache coupable. Venez en croyant. Si, ne prenez pas de risque. S'il y a quoi que ce soit dans votre vie, quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Je sais que cela doit arriver, mais je ne sais pas quand cela va arriver. Mais cela doit arriver parce qu'il vient de le révéler maintenant même. Il ne fait rien avant de l'avoir fait connaître. Amos 3. Il le fait connaître. Et il a promis que ces choses arriveraient les derniers jours, à la fin du septième âge de l'Église, quand le messager serait venu. Alors seraient révélés ces sceaux brisés. Ils seraient révélés et les voici. Et c'est au nom du Seigneur. Croyez-le, les amis. Sortez de Babylone. Je désire ajouter quelque chose avant de terminer, car il est 9h30, c'est l'heure. Alors que Billy et moi, nous quittions l'avion en Inde lors de notre dernier voyage, j'ai lu sur un journal en anglais, il disait, les tremblements de terre doivent être terminés, les oiseaux reviennent. Ensuite, il y avait des détails. Quelque chose de curieux est arrivé. En Inde, il n'y a pas de clôture grillagée comme chez nous. Ils ramassent des pierres et ils en font des clôtures. Ils construisent ainsi beaucoup de leurs maisons en pierres sèches partout en Inde. Les maisons sont assez rapprochées, sauf dans les montagnes. À Calcutta et dans les autres villes, les gens sont étendus dans les rues, mourant de faim. Ainsi, ils construisent leur maison avec une clôture autour parfois pour abreuver leur bétail. Ils ont un puits sur lequel ils bâtissent une tour et ce puits est entouré d'une clôture. Et tout à coup, quelque chose se passe. Les petits oiseaux, vous savez, viennent nicher dans ces pierres et y élèvent leurs petits et quelque chose commence à se passer. Tous les jours, lorsqu'il commence à faire très chaud, le bétail vient chercher la fraîcheur à l'ombre de ces murs. Et c'est dans ces murs que vivent tous les petits oiseaux. Et soudain, pour une raison inconnue, tous les oiseaux, à la fois, et vous savez ce que nous avons dit au sujet des petits oiseaux, l'autre jour, pour une raison inconnue, ils sont partis. Ils ne sont pas revenus dans leur nid. Ils sont partis dans les champs. Ils se sont posés dans les arbres, là où ils pouvaient arriver, ou même par terre. Les bétails et les brebis ne voulaient plus s'approcher des murs, ils restaient dans les champs, se serrant les uns contre les autres. C'est une bonne manière d'agir. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre qui a démoli les murs, les clôtures et tout le reste. Ensuite, les petits oiseaux commencèrent à revenir. Ils n'étaient pas revenus depuis 3 ou 4 jours, mais ensuite, ils commencèrent à revenir. Alors, les gens disent, les tremblements de terre doivent être terminés parce que les oiseaux reviennent. Pourquoi? Ne croyez-vous pas que le même Dieu qui a fait entrer les oiseaux, le bétail et les brebis dans l'arche au jour de Noé n'est pas aussi le même Dieu qui peut les envoyer pour se mettre à l'abri? N'est-ce pas vrai? Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et toutes ces vieilles et grandes murailles ecclésiastiques vont s'écrouler. Les gens vont les franchir et se mettre d'accord. Ils vont le faire. Aussi vrai que je suis devant vous, il y a une image de la bête. C'est aussi vrai que je me tiens devant vous. Cette nation l'a prise selon ce que dit la parole du Seigneur. Écoutez, quand vous ressentirez cette drôle de sensation, éloignez-vous de ces murs. Allez-vous-en, sinon vous mourrez là. Ne le faites pas, sortez de là. Éloignez-vous de toutes ces choses. Fouillez pour vous mettre à l'abri aussi vite que possible. Demandez à Dieu qu'il vous fasse miséricorde. Ne dites pas, ma mère était méthodiste. Ainsi, je pense que je le serai aussi. Mon papa était baptiste, moi aussi. Ne faites pas cela. Ne prenez aucun risque. Peu importe si ça paraît si simple ou humble, c'est la parole du Seigneur. Fouillez vers Jésus-Christ aussi vite que vous pouvez et demeurez là jusqu'à ce que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit. Car l'heure vient où on le cherchera, mais il ne sera plus là. Ainsi, soyez sûrs de le faire. Courbons la tête. Père céleste,
oh,
parfois, Seigneur, étant debout ici, et je tremble, je pense à cette heure terrible qui s'approche, et il n'est pas possible de l'arrêter. Il a été prédit qu'elle viendrait. Et j'ai pensé, je me suis demandé pourquoi les gens ne veulent pas venir afin d'écouter et d'accepter cela. Mais bien sûr, je sais que tu as dit qu'ils ne le feraient pas. C'est pourquoi ils ne le font pas. Mais il y en a dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et lorsque ces sceaux sont ouverts, ils y voient leur nom. Alors le Saint-Esprit leur parle et ils viennent. Tu ne peux pas les en tenir éloignés. Personne ne le peut. Ils viennent de toute manière parce que tu les conduis comme tu l'as fait pour ces petits oiseaux et ces brebis et ce bétail. Tu es Dieu. Un instinct dans ces animaux leur fait savoir qu'ils doivent s'en aller. Si l'instinct d'un animal a pu l'avertir de fuir le danger, que devrait faire le Saint-Esprit à une église qui prétend en être remplie? Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos manquements. Nous ne voulons pas nous tenir ici, Seigneur, et les gens le long des murs, avec mal aux jambes, et puis s'en aller simplement en disant, « Eh bien, ça semble très bien. Seigneur, nous voulons faire quelque chose à ce sujet. Nous voulons que tu sondes nos cœurs. Et s'il y a quelque chose de faux, Seigneur, fais-le nous savoir maintenant, s'il te plaît. Ne nous laisse pas arriver à cette heure où il sera trop tard. Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur. Je me tiens ici par la grâce de Dieu, voyant ces sceaux brisés, et je viens l'annoncer aux gens, car tu m'as prédit il y a plusieurs semaines que ça se passerait ainsi. Et maintenant, Seigneur, ces choses sont juste là devant nous. Maintenant, Seigneur, éprouve-moi, sonde-moi. Sonde-moi dans mon cœur, Seigneur. Nous voulons que tu regardes dans nos vies, et s'il s'y trouve quoi que ce soit qui n'est pas juste, dis-le-nous simplement, Seigneur. Nous voulons dès maintenant nous mettre en règle, maintenant même, alors qu'il y a une fontaine remplie de sang, alors qu'il y a un décolorant qui peut nettoyer nos péchés, notre incrédulité. Nous voulons plonger nos âmes et toute notre incrédulité là-dedans. Oh Dieu, viens au secours de notre incrédulité. Éloigne-la de nous, Seigneur. Nous voulons recevoir la grâce de l'enlèvement. Nous voulons être capables, quand ces mystérieux tonnerres tonneront là-bas et que l'Église sera enlevée, nous voulons être prêts à le recevoir, Seigneur. Accorde-le. Éprouve-nous, Seigneur, par ta parole, que nous puissions y regarder. Et si nous voyons que nous avons manqué, s'il en est, Seigneur, ici qui ont été baptisés dans des titres, ne connaissant rien du vrai baptême, puissais-je être fidèle comme Paul lorsqu'il est arrivé à Éphèse après avoir passé par les contrées supérieures, qu'il y trouva des disciples qui criaient et jubilaient. Il passait des instants glorieux et leur a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ?» Ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors il leur a dit, « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Ils avaient été baptisés par ce glorieux et saint prophète, mais seulement du baptême de repentance. Alors ils furent rebaptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur a ordonné d'être baptisés de nouveau. Seigneur, à la lumière de ta parole, je commande à chaque personne qui n'a pas encore été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ de se hâter vers les eaux tandis qu'ils ont l'occasion. Vous qui n'avez pas été remplis du Saint-Esprit, je vous commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, tombez sur vos genoux et ne vous relevez pas avant que le Saint-Esprit vous ait sanctifié entièrement et rempli de son amour et de sa bonté, avant que votre âme ne soit satisfaite dans la présence de Dieu et que tout votre désir soit de le servir, de marcher pour lui et de travailler avec lui tout le reste de votre vie. Accorde-le, je te prie, que Dieu vous donne cette charge au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous l'aimez réellement, levez la main. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui ressente le besoin, qui ressente qu'ils ont besoin d'être baptisés, ou qui ait besoin du baptême du Saint-Esprit? Vous connaissez votre besoin, il vous a été révélé, et vous désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière. Aucun de vous ne peut vous donner le Saint-Esprit. Nous ne pouvons que vous baptiser d'eau. Dieu seul fait cela, seul. Mais vous sentez votre besoin parce que Dieu a parlé à votre cœur que vous en avez besoin et vous désirez que nous souvenions de vous dans la prière. Voulez-vous vous lever afin que nous sachions où vous êtes, que Dieu vous bénisse? Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'il y a environ 150 personnes debout. Pour autant que je les vois toutes, je ne sais pas combien ont levé la main dans les autres salles et dehors. Mais vous avez un besoin, maintenant prions. Vous qui voyez ces gens qui sont debout à côté de vous et qui se tiennent là comme témoins devant Christ. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je crois que je suis l'un de ceux qui vont trouver leur nom écrit derrière ce sceau qui a été placé là avant la fondation du monde. Quelque chose a frappé mon cœur et je suis debout, Seigneur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu m'appelles? Je désire que tu te révèles à moi, mon nom, Seigneur. Remplis-moi et scelle-moi en toi par le Saint-Esprit. Vous qui avez déjà été scellés, je vous demande de vous lever. Tournez-vous vers ces personnes, posez les mains sur eux et priez pour eux. Maintenant, soyez sincères à mort. Père céleste, dans le nom du Seigneur Jésus, que ce Saint-Esprit glorieux se répande sur cet auditoire. Chaque cœur, Seigneur, envoie le baptême du Saint-Esprit sur ces gens. Le chemin de l'eau. Alors qu'ils prononçaient ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux.